Eh bien, bonjour. Merci de votre présence à ce colloque organisé par Ecolab, technologie émergente et fragilité, sur les conditions de choix des matériels et de l'aménagement à domicile. Vous verrez dans le courant de l'après-midi 8 présentations qui sont faites vraiment par les personnes les plus représentatives, à la fois d'une expertise et d'une acceptabilité sociale sur chacun des thèmes développés. Deux grands axes dans l'après-midi. Le premier, c'est sur l'aménager aménageable, le transformer transformable, les conditions de construction et de réhabilitation qui intègrent la nécessaire évolution du logement par rapport à l'âge et au grand âge. Deux interventions en ce sens. D'abord, celle du groupement associatif Wallon, représenté par Vincent Schnock, ici son président, qui a mis au point une méthodologie et tout un processus absolument remarquable au niveau européen de fabrication et de conception de plans transformables et évolutifs par rapport au logement. Ensuite, Gabriel Desgrouas, qui préside l'association Handibat Développement, que vous connaissez pour la plupart, qui en France associe un label d'artisan avec une expertise particulière sur le maintien à domicile. Dans la continuation, à partir du moment où le logement est adapté, adaptable, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Et là, le cœur de ce colloque, c'est vraiment de réfléchir avec vous sur les conditions aujourd'hui de choix d'un mobilier ou d'un équipement plutôt qu'un autre, par les professionnels du terrain ou par les familles. Les ergothérapeutes, représentés par le président de l'Association nationale française d'ergothérapie, Éric Trouvé, également représenté par Sandrine Pradier, qui est chef de produit au sein d'Ecolab et en même temps membre de l'association ANFE, et la présentation de ce qui se fait à l'étranger, une expérience que vous connaissez pour la plupart parce qu'elle est exemplaire, c'est les conditions d'association des usagers, justement à la mise au point et au choix des matériels par le Danemark, et c'est Annette Betzelen qui nous le présentera. Ensuite, les réponses que nous pouvons apporter, ces réponses que nous pouvons apporter au sein du projet qui est lancé aujourd'hui, et c'est officiellement son lancement, c'est la base de données de référencement Ecomob, qui consiste à créer une base intermédiaire entre les besoins du marché et les besoins de l'offre, selon un dispositif, une ergonomie, une éthique, qui vous sera présenté en fin de colloque. Mais d'abord, vous avez remarqué que Madame la Ministre n'était pas là. Elle nous a fait part en début de matinée du fait qu'elle était impossible finalement à caler cette date dans son programme. Et nous le regrettons, mais nous la remercions de toute la dynamique qu'elle a créée autour de cette notion de Silver Economy, de Silver Economy Expo, les organisateurs, le cabinet, Fabien Verdier, sans lesquels nous ne serions pas là avec vous aujourd'hui. Mais pour remplacer, je ne dirais pas heureusement, je ne me permettrai pas, mais agréablement, l'absence de Madame le Ministre, nous avons la grande chance d'avoir Patrick Maléa, directeur du CNR Santé, que vous connaissez tous bien sûr, qui va introduire le thème de ce colloque et présenter les orientations qui sont celles définies par le CNR Santé. Je vous remercie de votre écoute, je vous donne rendez-vous dans quelques instants et je suis heureux de céder la parole à Patrick Maléa.
Bonjour à tous et merci à Jean-Philippe pour cette introduction. Je ne remplacerai pas Madame Delaunay. Et puis je dois avouer que Madame Delaunay nous offre là une belle période, puisque au moment où nous subissons tous cette crise, elle met, je dirais, en premier son énergie pour nous montrer le sens vers lequel nous pouvons aller pour pouvoir accompagner, je dirais, avec envie et qualité ce défi qui est devant nous, qui est le défi de la conquête de l'âge. Parce que clairement, aujourd'hui, en prenant la parole à ce colloque, et je remercie l'entrepreneur qui est Jean-Philippe Mousnier, nous sommes là pour essayer d'apporter des réponses maintenant, demain et après-demain. Mais le premier mot qui me semble important, c'est maintenant. Parce que la silver economy, c'est pas une économie qui n'est que dans un devenir à 10 ans ou à 15 ans. C'est une économie qui doit nous amener à réfléchir, à apporter des réponses là et maintenant. Un certain nombre de professionnels sont déjà aujourd'hui à l'œuvre pour cela. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de développer réellement une capacité du agir ensemble. Le Centre national de référence, santé à domicile et autonomie, est une structure qui, depuis sa naissance, essaye d'éviter d'être un bidule de plus et simplement d'être plutôt un catalyseur qui doit permettre cette capacité à agir ensemble. Parce que face aux défis que nous avons à relever aujourd'hui, l'ensemble de ce que nous connaissons bien en France, que sont les particularités locales, départementales, régionales ou les différences nationales, n'ont pas leur place. Aujourd'hui, les Français et les Françaises qui rentrent dans ce défi de l'âge, nous devons leur garantir, même en 2013, il reste peu de jours, que nous sommes en capacité de leur donner la bonne information au bon moment pour pouvoir agir dignement sur ces enjeux qui sont liés à cette nouvelle période de vie. Et agir dignement, c'est agir en autonomie. Et la plus belle innovation que nous pouvons avoir, et là j'invite tous ceux qui participent à programmer des efforts au plan local, au plan national, au plan européen, ce que nous ne pourrons pas enlever à une politique d'innovation, c'est une politique d'innovation qui prône l'autonomie. Le défi que nous avons à relever chaque jour dans nos vies respectives, que nous soyons en situation de maladie, de handicap, en bonne santé, mais avec d'autres difficultés au plan social, c'est de conserver notre autonomie. Aujourd'hui, ce défi de l'autonomie, c'est un axe majeur d'innovation. Quand on a parlé de l'Europe de la connaissance, l'Europe de la connaissance, c'est cette capacité à donner à chacun d'entre nous cette bonne connaissance permettant d'agir et de maîtriser son destin et avoir réellement cette capacité d'autonomie. Et vous verrez, en tout cas je l'espère, qu'une partie de la réponse de la construction de l'autonomie ne se trouve pas dans la technologie, mais se trouve dans les services que peut rendre la technologie pour pouvoir favoriser cette capacité à décider, à programmer correctement, je dirais, son avenir. Alors 2013 est une année qui se termine. Je vais vous passer en revue rapidement quelques éléments. Certains ont déjà vu cette présentation qui est certes récente pour le Centre national de référence, mais je l'ai présentée la semaine dernière. Tout ça pour dire qu'en France, nous sommes un certain nombre à être rentrés dans ce défi de l'âge. Une part de la population, je ne m'arrêterai pas aux chiffres, je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais en tout cas, ce que je peux dire et qui confirme la position de Madame Delaunay, c'est une population importante. Cette population importante, vous en avez là un pourcentage exprimé par rapport à un niveau d'âge, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que vieillir en France, et là aussi, nous pouvons ne pas être d'accord sur un certain nombre d'études, de chiffres, c'est pas ce que nous faisons le mieux. Vieillir en France rencontre un certain nombre de difficultés. Si nous n'avons pas à rougir de la situation actuelle d'un certain nombre de personnes qui vieillissent par rapport au niveau de revenus, nous pouvons largement nous inquiéter de la place que nous pouvons avoir quant à la réponse sanitaire vis-à-vis des enjeux du vieillissement. Alors là aussi, ne prenez pas ce chiffre, ne faisons pas des polémiques sur les chiffres, mais par contre, il est réel de constater qu'aujourd'hui, notre système sanitaire largement curatif, essayer d'entendre ce qui se passe uniquement au moment où la personne franchit la porte de chez le médecin ou la porte de l'hôpital, c'est peut-être un peu tard. Et nous avons de quoi relever un certain nombre de défis pour entendre ce qu'il se passe bien avant que l'aléa se réalise et que l'accident soit totalement constaté. En termes d'emploi, je ne rentrerai pas dans ces débats, la France connaît une crise importante au niveau de l'emploi. Les seniors que nous sommes tous, moi j'ai 46 ans, donc je me regarde et je me projette dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. L'emploi, la notion de senior en emploi commence très tôt. Et aujourd'hui, le défi de l'activité, le défi de l'autonomie se rencontre. Vouloir aujourd'hui asseoir une qualité de vie, vouloir favoriser le développement harmonieux d'une économie comme la silver economy, c'est se questionner sur l'emploi. Dernière chose, l'adaptation de notre société. Notre société tarde à s'adapter. Raisonnablement, j'ai la chance de voyager dans le monde entier. quand on parle d'accessibilité, quand on parle d'un certain nombre de sujets, même avec l'aide de la loi, nous avons un certain nombre de difficultés qui sont celles d'une adaptation volontaire aux enjeux du vieillissement et, je dirais plus généralement, aux enjeux de la qualité de vie. Alors, la réalité qui est la nôtre en 2013, c'est qu'il y a cette prise de conscience. Jean-Philippe l'a dit, on peut vraiment se satisfaire qu'il y ait encore un espoir dans le politique quand il met autant d'énergie à essayer de nous convaincre que la première révolution que nous pouvons faire, c'est dans nos têtes. Et c'est vrai. Essayer de regarder les choses autrement, essayer de penser autrement, ça se joue dans les 20 centimètres qui séparent nos deux tempes. Et je pense que l'action de Madame Delaunay, et puis maintenant d'un certain nombre d'entre vous, c'est d'essayer de dire que, à ce moment-là, oui, nous pouvons peut-être essayer de regarder les choses autrement, et entre autres, ne pas faire ce que j'ai souvent reproché, l'apologie du monde de la technologie. Ce que veulent les Français et les Françaises, ce sont des services. Que ces services leur soient rendus par des technologies, peut-être. Je veux dire, c'est pas là le sujet, mais ce que nous voulons, c'est plus de qualité de vie et plus de services. Alors, cette volonté politique, qui se signera entre autres dans un contrat de filière la semaine prochaine, et qui aujourd'hui s'exprime par ce regroupement, ce rassemblement d'un certain nombre d'acteurs qui veulent essayer de solutionner ce futur, et ce futur qui commence dès aujourd'hui. Je veux rendre hommage là-dessus à l'initiative des collabs, parce que vous avez là une initiative qui, moi, m'importe énormément. C'est celle de la création d'entreprises. Je crois que dans ce secteur-là, nous avons surtout besoin de voir des entrepreneurs s'installer et vouloir populariser des services pour pouvoir favoriser ce changement. Je dois avouer que les aides pour des projets sont de bonnes politiques, en particulier quand il y a des verrous technologiques, mais nous avons aussi besoin de recultiver le champ de l'entrepreneuriat et voir apparaître un certain nombre d'acteurs en capacité de promettre quelque chose, de le livrer, de le facturer, de le maintenir et de le faire vivre. Et derrière, d'engendrer un certain nombre de créations d'emplois à chaque fois que cela est possible. Alors cette volonté politique, elle s'est exprimée. En ce qui concerne le CNR, je passerai assez rapidement, mais une lettre précise a été donnée. C'est une très belle évolution. Parce que ne pas vouloir être un bidule de plus, c'est pas si évident que ça. Parce que tant qu'on n'a pas dit clairement ce que devait faire le CNR, on est assez naturellement un bidule de plus. Donc 3 ans ont été nécessaires pour rééduquer l'État. Mais Madame Delaunay et Monsieur Montebourg ont largement pris les choses en main pour donner une lettre de mission claire au CNR Santé. Alors cette lettre de mission, elle cible des résultats très concrets que nous devons obtenir par à la fois ces changements dans nos têtes et puis une politique industrielle, puisque le rôle du CNR Santé, c'est de favoriser l'émergence d'une politique industrielle permettant le développement d'entreprises sur toute la chaîne de valeur, qui peut permettre de rendre des services nouveaux à la population française et d'améliorer les scores que je vous ai rapidement présentés. Et pour cela, il faut faire un constat. Un, l'amélioration de la qualité, oui, mais à la condition qu'on change. Parce que la qualité, comme je le dis souvent, c'est un mot un peu passe-partout, sauf si on accepte de lui donner ses vraies valeurs, qui est le pouvoir de négociation. Et le pouvoir de négociation, c'est que face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, il faut juste admettre qu'il faut changer. Il faut changer d'époque. Il va falloir s'adapter. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, 1000 personnes, peut-être en France, en Europe, ont une juste connaissance de ce que nous pourrions faire pour éviter ce qui est évitable, ben, comment populariser cette connaissance détenue par 1000 personnes auprès, en France, de 17 millions de personnes et en Europe, sûrement, de plus de 100 millions de personnes, auprès de 2 millions de professionnels qui travaillent dans ce secteur en France, auprès de plus de 20 millions de professionnels qui travaillent dans ce secteur en Europe. Vous voyez que les défis qui sont les nôtres, c'est de s'adapter, et de s'adapter très tôt. Et quand dans le rapport Nora Béra, que le professeur Alain Franco avait conduit en 2009, nous indiquions que si nous voulons voir se développer une filière industrielle en France, il faut largement s'attacher à des sujets comme la formation, nous avions vu juste. La santé, les solidarités resteront des métiers de pure main-d'œuvre. Resteront des métiers de proximité, resteront des métiers de permanence. Peut-être que cette proximité, cette permanence se réalisera autrement, mais en tout cas, la nature du service qui doit être rendu a au moins cette vertu-là, quoi. Dernière chose importante, anticiper la réponse stratégique qui pourrait être une réponse qui vient après le premier événement grave, ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas attendre aujourd'hui de vouloir construire des réponses vers les citoyens à partir du moment où l'aventure commence par un accident. Donc la réponse aujourd'hui, c'est qu'aussi il nous faut construire les conditions de cette anticipation. Alors, je vous l'ai dit, moi c'est un travail de thèse que j'ai fait en 2010 à l'École des Mines de Paris, mais quand je travaillais sur les risques et l'aménagement durable des territoires de santé, je me suis rendu compte à la fin que la seule chose qu'on pouvait essayer d'améliorer, c'était d'éviter ce qui était évitable. Alors en disant cela, ça devient un petit slogan et j'en suis ravi, mais c'est simplement pour dire que nous savons ce qu'il va se passer. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, comme je l'entendais quand j'ai eu l'occasion de franchir la première fois au plan professionnel la porte d'un hôpital, l'hôpital ne sait pas ce qui va lui arriver dans la journée. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous sommes largement en capacité de prévoir énormément de situations. Et ces situations, simplement, méritent de refonder à la fois l'écoute et à la fois le mode d'intervention. Mais c'est vrai que si nous restons derrière les portes de nos maisons, qu'elle soit l'hôpital, qu'elle soit le cabinet d'un médecin ou qu'elle soit la porte d'une famille en attendant que le téléphone sonne pour savoir qu'un parent a eu l'accident qui était si prévisible, nous sommes coupables. Alors la société, moi qui m'intéresse, sûrement grâce au numérique, c'est une société qui devient, dans le respect, dans l'éthique, une société beaucoup plus vigilante. Et cette vigilance aujourd'hui, c'est une culture nouvelle de la qualité. Alors, le travail qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'améliorer cette balance, puisque vous voyez que cette situation aujourd'hui est inacceptable. Nous ne pouvons pas conserver une situation où vieillir en France est un vieillissement qui, comme toutes les étapes de la vie, nécessite de prendre des risques, mais finalement des risques que nous ne savons pas correctement assurer. Et là, je ne trace pas du tout le rôle des assureurs, je trace notre responsabilité individuelle en disant que nous laissons aller un certain nombre de situations alors que nous avons aujourd'hui largement les moyens de pouvoir réduire tout ce qui est évitable. Alors, ce qui m'a été demandé par Jean-Philippe et qui devait se passer en fin de rencontre, je vais le condenser aussi avec ce message. Le gros problème que nous avons en France, c'est que nous n'avons pas à adresser la France, mais les Frances. Nous pourrions avoir les Frances de l'enseignement supérieur, de la recherche, des régions, des départements, des communes, des CCAS. La difficulté, c'est que tout cela doit maintenant essayer de s'orienter vers un but. L'heure est venue, et c'est le premier message que nous avons à construire à travers ce qui va vous être proposé un petit peu plus tard, c'est-à-dire le fait de concentrer, de mutualiser de la connaissance et de la rendre disponible, là dans le cas précis d'un projet, d'un entrepreneur, demain dans l'émission du Centre national de référence, c'est faire en sorte que nous puissions nous rassembler. Nous ne pourrons pas relever ce défi-là en gardant ce que nous avons connu jusqu'à présent, c'est-à-dire des initiatives qui partent dans tous les sens, dans tous les coins, mais qui ne rencontrent jamais la taille critique et l'opérationnalité qui est nécessaire pour obtenir des résultats nouveaux. Pas tant pour faire plaisir au CNR Santé, moi je vous rassure que ce soit le CNR Santé ou autre chose, peu m'importe, mais par contre ce qui me semble important c'est que les résultats que nous voulons avoir pour que nous puissions tous regarder l'avenir différemment doivent être des résultats mesurables, des résultats identifiables et sur un marché qui est un marché du grand nombre, sur un enjeu qui est un enjeu du grand nombre, nous devons avoir une politique et une ambition nationale. Alors rassembler, je ne vous cache pas que en 4 ans, tous les jours, on essaie de rassembler. Je ne sais pas, c'est compliqué en France. Là, c'est juste une parenthèse. Mais nous sommes preneurs de toutes les initiatives qui peuvent aider à rassembler, en espérant que nous ne soyons pas, nous, une cause supplémentaire de division. Animer. Animer, c'est un sujet important. Pourquoi ? Parce que le travail qui vous sera présenté tout à l'heure, c'est justement d'éviter de refaire ce qui a déjà été fait. Animer, c'est faire apparaître des idées, mais c'est réellement faire du retour d'expérience. Et le retour d'expérience, c'est pas un retour d'expérience que l'on fait histoire d'avoir un papier qui soit publié ou un papier qui soit maintenu dans la presse locale, mais c'est vraiment de prendre le temps de regarder ce qui est fait ailleurs et de trouver les moyens de le partager, de le démultiplier et de pouvoir éventuellement l'améliorer. Donc cette animation aujourd'hui doit se faire avec une volonté de consolidation au plan national. Les idées, il y en a, il y a de bonnes idées, elles ont montré leurs preuves. Évitons systématiquement de refaire ces idées-là et d'essayer de trouver des réponses ailleurs que dans ce que nous avons déjà fait. Un regard important et qui correspond au projet de l'entreprise Ecolab, c'est que nous avons jusqu'à présent largement ignoré le comportement qui permet le développement économique, celui de l'achat. Le problème, c'est que même pour ceux qui dépensent aujourd'hui dans les conseils généraux, à un moment donné, vous avez des acteurs qui mettent en œuvre des procédures d'achat. Si nous voulons populariser de l'innovation, on ne peut pas faire de l'innovation qui se passe à côté de la vraie vie. À un moment donné, il faut que la race d'entrepreneurs que nous accompagnons et puis la race de clients que nous préparons arrive à se parler. Et je peux vous garantir que dans tous les secteurs économiques, le référencement des produits et des services est une solution. Le fait d'avoir un catalogue, alors la dernière fois j'ai fait une erreur, j'ai parlé de mon enfance, j'ai parlé de Manufrance. Et je me suis rendu compte que dans la salle dans laquelle je parlais, Manufrance n'était pas connu. Alors prenez le catalogue que vous souhaitez, mais il est important de provoquer un comportement d'achat quand on veut pouvoir populariser une innovation, qu'elle soit une innovation organisationnelle, une innovation de service ou une innovation technologique. Donc référencer ce qui existe vraiment, c'est aujourd'hui un enjeu majeur. L'autre point important, c'est aussi un enjeu pour se rendre compte qu'il y a des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. Et que si on souhaite populariser une innovation au plus près des Français, il faut être certain qu'un produit soit facturable, maintenable, distribuable. Et vous voyez que quand on regarde des projets de technologie, bien souvent, ces pans entiers n'apparaissent pas. Mais tout cela a un coût, tout cela pose énormément de problèmes. Est-ce qu'il y a une documentation? Donc vous voyez que ces sujets-là, aujourd'hui, ce sont des verrous importants que nous allons devoir accompagner et qui mettent en écho, je dirais, le travail qui vous sera présenté. La commande publique d'innovation, je peux vous évoquer un sujet qui sera dans le contrat de filière et qui est issu donc d'un membre du conseil d'administration du CNR, le président Kennel du conseil général du Bas-Rhin, qui souhaite que même ceux qui dépensent et qui n'ont pas forcément aujourd'hui tous les gènes, je dirais, de l'acheteur, parce qu'un conseil général n'est pas forcément dans toutes ses missions un acheteur, mais il dépense de l'argent pour une politique importante dans le champ des solidarités et du social, et en particulier du maintien à domicile. Ben, il doit pouvoir réellement prendre part en pouvant flécher un certain nombre de ses dépenses vers trois objectifs simples. Une commande tournée vers l'amélioration de la qualité du service rendu, une commande tournée vers la croissance des activités, qu'elles soient celles des entreprises ou du monde associatif, et une commande qui permette de valoriser des nouveaux emplois. Ben oui, c'est possible. Il y a des conseils généraux qui sont prêts à jouer cette responsabilité-là au moment où ils dépensent de l'argent, et cet argent qui est si difficile, par ailleurs, à essayer de concentrer sur un certain nombre d'initiatives importantes. L'autre point important qui nous a été demandé, c'est de labelliser. Alors, là-dessus, je vais être très clair, pas un label de plus, mais plutôt une démarche. Moi, je dois vous avouer que si même à la fin, il n'y aura pas un sticker à coller quelque part, ça ne sera pas grave. Par contre, si nous avons balisé la route qui permette réellement de démontrer ce qui peut être fait pour atteindre un nouveau niveau de performance, je dois vous avouer que nous aurons largement participé à améliorer ce secteur et à le changer. Donc ce que nous prenons surtout, c'est une démarche de labellisation. Essayer de faire en sorte que s'installe un dialogue entre ceux qui ont besoin de ces produits-là, ceux qui sont capables de les mettre en œuvre et ceux qui sont en responsabilité de fournir les moyens techniques qui permettront l'obtention de ce résultat-là. Vous savez, les vertus de l'addition, j'en parlais au début en disant il est important de nous rassembler, mais les autres vertus de l'addition, c'est que c'est une opération simple. Et avant d'aller faire des choses compliquées dans ce secteur-là, si nous pouvions simplement additionner les talents qui sont liés à des produits, les talents qui sont liés à ceux qui les mettent en œuvre, et la disponibilité de cette solution pour celui qui en a besoin au moment où il en a besoin, nous serions déjà dans une marge importante de progrès. Alors la labellisation, c'est quoi? Et ça, je vais m'arrêter deux minutes, puisque ça donnera, je dirais, un contexte à ce qui va suivre. c'est avant tout de l'aide à la décision. Un label, c'est pas une étiquette. Une démarche de labellisation, ce n'est pas non plus une étiquette. Une démarche de labellisation, c'est déjà une capacité de mobiliser les acteurs de telle façon qu'ils aient une responsabilité ensuite de devoir prendre des décisions dans le cadre qui leur est proposé. Parce que si nous faisons une démarche de labellisation mais que nous continuons à essayer de prendre des décisions en dehors de ce cadre, autant dire qu'il n'y a aucun intérêt à faire une démarche de labellisation. Donc tous les enjeux que nous avons aujourd'hui, c'est de vérifier que si nous engageons cette démarche de labellisation, ce qui sera le cas d'ici quelques jours, ceux qui vont décider vont l'utiliser. Là, nous marquons un but. Et vous voyez qu'on est très loin d'utiliser un sticker en couleur. Deuxième point important, l'aide à la négociation. C'est capital. À partir d'un résultat qui est programmé, qui est présenté, il faut pouvoir négocier la forme. Hier, je présentais le retour d'expérience sur une DSP, une délégation de service public. Un certain nombre de sujets doivent apparaître pour réussir un changement. Et des sujets qui ne sont pas que d'ordre technologique, qui sont d'ordre financier, qui sont d'ordre relevant de la formation, qui relèvent aussi du cadre juridique dans lequel nous allons contracter cet avenir. L'innovation, ça passe aussi par ces règles-là. Donc l'aide à la négociation sur ces sujets-là est un moyen de favoriser le changement et l'innovation. Et l'aide à l'innovation, parce que oui, le progrès technologique peut contribuer à ce changement, et il y a aussi à arbitrer un certain nombre de sujets. Voilà l'objectif d'une démarche de labellisation. C'est de favoriser ce dialogue, et non pas ce qu'on nous oppose régulièrement, le fait de venir foutre un sticker de plus sur des produits. Honnêtement, pour ceux qui feront ça, il n'y aura aucun lendemain. Par contre, pour ceux qui investiront dans une démarche de cette nature, il y aura des résultats à une condition. Se rassembler et durer. Parce que je peux vous garantir que dans le dispositif médical que je connais bien ou dans d'autres secteurs économiques, les démarches de labellisation, ce n'est pas l'histoire d'une baguette magique. C'est malheureusement des aventures qui se comptent entre 5 et 10 ans. Alors vous imaginez bien que si nous restons ces gamins de cours d'école à courir dans tous les sens, prétextant que la silver economy, c'est l'aventure de chacun dans son coin pour promouvoir de la technologie, nous allons passer largement à côté. Par contre, si l'aventure de la silver economy, c'est une économie de la qualité qui doit permettre de populariser des solutions pour améliorer réellement la qualité de vie de nos concitoyens, là, je peux vous dire qu'il va falloir que nous apprenions à marcher au pas et à rentrer dans des démarches sur lesquelles nous pourrons que constater, année après année, de petits résultats. Mais nous ne ferons pas un coup de baguette magique. Vous avez là une cible qui a un certain nombre de recommandations. Jean-Philippe et un certain nombre de partenaires présenteront d'autres indicateurs. Il nous faut aujourd'hui rassembler cette connaissance qui permette d'avoir un certain nombre de données de référence pour pouvoir aujourd'hui répertorier et orienter, je dirais, l'aide à la décision, la négociation et l'innovation dans le secteur des applications ou des solutions pouvant participer à l'amélioration de la qualité de vie. Et puis il nous faut construire un processus, parce que là aussi, je l'ai souvent critiqué, mais les démarches qui consistent à s'auto-reconnaître entre amis, ça ne fonctionne pas. La démarche qualité n'a d'intérêt, même si on fait de l'auto-évaluation, que si nous la faisons avec réellement une capacité à évaluer en confiance des résultats et à démontrer que quand nous y sommes pas, nous y sommes pas. Mais pas simplement de nous accorder entre nous des labels pour pouvoir dire que nous sommes labellisés. Alors, tout cela n'a d'intérêt, et ça sera déjà l'état d'esprit des personnes qui sont réunies ici, que si nous le partageons, pas tant entre Français, mais au plan européen ou international. Nous ne pouvons pas aujourd'hui construire cette politique avec un véritable visage en matière d'innovation, que ce soit d'innovation sociale ou de l'innovation entrepreneuriale, en essayant d'en faire une prérogative franco-française. Donc il nous faut largement embrasser la dimension européenne, embrasser la dimension internationale, prendre part à la normalisation, prendre part à la standardisation, et faire en sorte que la chaise française soit enfin aujourd'hui occupée, au moment où le reste de l'Europe, et du reste les principaux pays de l'OCDE, s'engagent aussi dans des politiques tournées vers la silver economy. Alors, nous avons un certain nombre d'initiatives. Je redis, là, je reviens à ma maison, mais mon message n'intéresse pas que ma maison. Elle intéresse plus globalement cette politique ambitieuse qui doit nous permettre de fournir des résultats très concrets en matière de santé. Et vous voyez que déjà là, si je prends un territoire qui m'est cher, celui des Alpes-Maritimes, faire des additions, c'est compliqué, quoi. Nous en avons des chapelles. Et je peux vous dire que si nous voulons marquer un but ensemble, c'est vraiment en essayant de faire en sorte qu'un certain nombre d'entre elles arrivent à se rencontrer. Pour faire quoi ? Améliorer la qualité des services rendus aux citoyens. Vous le verrez dans ce que propose aujourd'hui l'approche, encore une fois, d'une entreprise. Favoriser la croissance des entreprises, parce que oui, derrière, il y a de l'emploi. Oui, derrière, il y a de l'activité. Si nous devons populariser des solutions auprès de millions de concitoyens, vous avez là des enjeux majeurs au plan économique. Et puis, dernière chose, nous sommes dans des métiers de pure main-d'œuvre. Nous sommes dans des métiers de la proximité, de la permanence. Et donc, quelque part, il y a un défi pour l'emploi et nous devons le relever. Et il est clair que ça passe peut-être par de la professionnalisation, qui est un sujet historique dans le secteur, mais ça passe aussi par l'apparition de nouvelles compétences, si on ne veut pas parler de nouveaux métiers, qui permettront de voir apparaître des rôles réels de coordination. Mais tout cela doit nous questionner sur un point. À quel prix allons-nous le faire ? J'entends beaucoup parler de la coordination aujourd'hui du gestionnaire de cas. C'est un métier de service, c'est un métier qui rendra possible l'utilisation de la technologie, mais ça sera un métier cher. En tout cas, ça ne sera pas un métier gratuit. Et il faut que nous soyons capables de faire des choix, d'arbitrer des choix, de dire là où nous sommes capables de mettre des moyens financiers pour simplifier la vie des Français et des Françaises. Dans quel domaine pour nous l'assistance, toutes les assistances, toutes les téléassistances, le monitoring, écouter beaucoup plus tôt ce qui se passe et ne pas intervenir après la catastrophe, et puis finalement fournir les contenus qui nous sont nécessaires, puisque même si les générations actuelles les plus touchées par le défi de l'âge ne sont pas, et encore que, moi je vois tellement de choses changer, ne sont pas ou ne sont toujours peut-être pas toutes impliquées dans cette consommation de contenu, nous le serons tous à très court terme. Et donc la qualité du contenu est un enjeu majeur aujourd'hui en matière de développement de la silver economy. Alors, vous voyez, avec PowerPoint ou avec cette application, la magie, ça existe. Moi, avec cela, je peux vous garantir que si nous savons agir ensemble, et si nous savons inscrire cela dans une profonde volonté d'innovation popularisée au plus près des Français grâce à tous les acteurs économiques, ben, nous allons réussir à faire cela, à avoir un résultat qui est celui-là. C'est-à-dire que oui, nous allons pouvoir réduire ce qui est évitable, parce qu'aujourd'hui, nous sommes réellement coupables de maintenir un tel niveau de situation qui pourrait largement être évité et améliorer la qualité du vieillissement. Alors, est-ce que nous le ferons pour 2020 ? Je dois vous avouer qu'en faisant cette présentation, on ne savait plus quelle date prendre. En 2020, c'est l'agenda de l'Europe. 2025, c'était la réflexion estivale pour nos ministres. Et 2030 ou 35 maintenant, c'est la politique d'innovation. Moi, je vous propose de prendre une date, le 1er janvier 2014. Premièrement, pour avoir l'occasion de vous présenter nos meilleurs vœux, mais surtout pour démontrer que si nous avons compris quelque chose de cette magnifique année qui a été celle que nous venons de vivre, l'année 2013, c'est que je ne suis pas sûr que nous aurons beaucoup de moyens supplémentaires. Je pense qu'il y aura quelques moyens, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que si nous voulons relever ce défi, changeons. Changeons, et le premier regard qui nous est possible de changer, c'est le nôtre. Et acceptons de dire qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être jusqu'à présent restés dans une situation où, tout en laissant faire les choses, nous n'avions pas vocation à obtenir un résultat supplémentaire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le défi qui est devant nous, c'est l'obtention de ce résultat supplémentaire. Je vous remercie.
Merci Patrick, c'est vraiment très agréable d'avoir des propos qui soient des vrais engagements de la part de personnes qui sont des acteurs majeurs dans le domaine de la silver economy. Et c'est sûr que derrière toi, c'est tout l'apport du CNR Santé, c'est tout l'apport des réseaux, réseaux d'experts et réseaux de communication qui peuvent porter toutes nos initiatives. Ce que je vous propose maintenant, rapidement, c'est de mettre en place justement le cœur de cette journée en laissant le soin d'un petit changement d'ordinateur pour la partie technique. Le programme de cette journée est en deux parties. La première partie, c'est sur le nombre de logements adaptés adaptables que l'on peut faire en France aujourd'hui. Vous l'avez vu dans l'annonce qui a été faite de ce colloque, on propose de doubler le nombre qui peut être fait, non pas par magie, non pas par clameur des chiffres et effet de Noël, etc., mais simplement par une analyse à la fois économique et sociale. Si l'on compare simplement le coût d'un aménagement de logement, moyen, il est, selon les statistiques de l'ANA, selon les statistiques de la CNAV, de Handibat également, entre 5 et 15 000 euros. 5 et 15 000 euros pour changer un logement et le rendre possible à un maintien de vie en bonne... en bonne santé le plus longtemps possible, entre 5 et 8 ans minimum, parfois beaucoup plus. 15 000 euros pour 8 ans. Quel est le prix moyen dans une maison de retraite aujourd'hui? Si l'on veut ne pas faire de chiffres spectaculaires, prenons de 1 500 à 2 500 euros par mois et vous voyez qu'on est très largement en dessous de la moyenne pour beaucoup, mais simplement sur ces chiffres-là. Prenez 8 ans de la vie d'une personne qui ne peut plus rester chez elle. Et j'essaye de changer de micro. Changement réussi. Et comparer sur 8 ans de vie en maison de retraite. Vous avez 8 fois 12 fois 2500 euros d'un côté, vous avez une fois 1500 euros de l'autre. Prenez le nombre de places d'EHPAD que cela économise. 20 000 logements adaptés, c'est entre 150 et 180 EHPAD de moins à construire. Et voyez les aides qui sont pour les institutions de prévoyance et les mutuelles à côté économisées par le maintien à domicile par rapport au placement en institution. C'est un des rares domaines où on est gagnant-gagnant. La famille est gagnante, l'État est gagnant et les institutions intermédiaires sont gagnantes derrière. Le coût pour une période de 8 ans du total investi qui, entre parenthèses, est créateur d'emplois puisque 90% des sommes investies dans l'aménagement du logement vont vers des artisans, vont vers des technologies, vont vers des ergothérapeutes qui vont être les acteurs de cet aménagement. Donc c'est 100% de bénéfices pour l'emploi et c'est entre 120 et 200 000 euros de gagnés sur 8 ans par logement. Pour 20 000 ou pour 40 000 logements, voyez ce que ça peut faire. Bien sûr, il reste le coût du financement et c'est l'obstacle que l'on met toujours en place. Mais réfléchissons sur le modèle économique. Je n'insiste pas, vous n'avez pas de présentation, parce qu'on va sortir un document que je vous invite à prendre, qui va être diffusé, sur le modèle économique du maintien à domicile par l'aménagement. Le modèle économique, c'est très clairement l'aide apportée à la gestion patrimoniale du logement. Le maintien à domicile fait plutôt, comme c'est fait en Wallonie, comme c'est fait en Autriche, comme c'est fait au Danemark, entre 60 et 65 ans, ou à l'époque où 80% des propriétaires sont occupants et peuvent aménager leur logement pour le rendre vendable après. On augmente la valeur ajoutée de l'appartement et on fait rentrer l'aménagement dans la valeur patrimoniale de l'appartement. Quelle est la solution proposée par ProBTP et la CAPEB? C'est une solution de prêt. On fait un prêt sur 5 ans ou 8 ans sur les 15 000 euros qui permettent aux artisans de travailler, qui permettent d'aménager le logement, et la famille a une somme de 50 ou 80 euros par mois à rembourser en maintenant chez elle la personne âgée, le couple âgé, le papy ou la mamie, mon père, maman. 8 ans de plus, c'est parfois beaucoup plus. Est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'insister? Les chiffres, ils sont en place. Le modèle économique, il est là. Simplement, aujourd'hui, ce sont des caisses différentes. Ce qui est de mise une poche, c'est pas l'autre poche qui l'investit, etc. Ce qu'on propose, un modèle économique très simple, dont les grandes lignes, je viens de vous les donner, eh bien, c'est de mettre côte à côte ces chiffres-là et de les mettre sur le marché. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Ces chiffres-là sont la réalité quotidienne d'aujourd'hui. Pourquoi en Wallonie, on arrive à aménager jusqu'à 100 000 logements par an? Pourquoi au Danemark, on arrive à aménager jusqu'à 1 million de logements sur 3 ans? Pourquoi dans tous les pays européens, le nombre d'aménagements est beaucoup plus important? Parce qu'on a une vision globale du coût et des dépenses qui sont liées à l'aménagement. Mais le plus important, c'est que 90% des personnes veulent vieillir chez elles. derrière les économies qu'on peut faire, et on ne pourra pas faire autrement. On ne construira pas les 200 EHPAD dont on aurait besoin pour compenser l'aménagement. Bien derrière ça, c'est la possibilité pour nos anciens, pour nous-mêmes plus tard, de pouvoir rester chez nous, près de chez nous, quand le logement lui-même ne le permet pas, trouver des logements intermédiaires, pour continuer à vivre dans son quartier en bonne santé le plus longtemps possible. Ça dépend que de nous. Rapprochons la poche gauche, la poche droite, et ayons un regard clair sur la dynamique économique qui est derrière. C'est la première partie de ce colloque, et on va l'engager dans quelques instants. Mais avant, je voudrais revenir, grâce à l'intervention de Patrick Malea et du CNR derrière, qui cadre parfaitement l'objet que nous lançons aujourd'hui, qui est cette base de données, sur les conditions du choix du mobilier, de l'équipement. À partir du moment où le logement est rendu adaptable, en rénovation, mais on le verra également en construction de neuf, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur quand on a détecté un écart, un besoin, une fragilité derrière? Quelles sont les conditions réelles de choix aujourd'hui d'un équipement? Est-ce que ça ne relève pas beaucoup plus du bricolage, du pharmacien du coin, du conseil de la voisine de palier, du catalogue de la CAMIF, etc., que d'une vraie analyse de la possibilité pour un équipement de mieux correspondre à une fragilité donnée? Et là, cette analyse, il faut que la famille soit aidée. Il faut que le recours à un professionnel, et très précisément un ergothérapeute, ce n'est pas par hasard que la NFE est présente aujourd'hui et qu'on signe une convention avec la NFE, ce recours est indispensable. Il n'y a pratiquement que lui qui peut évaluer la fragilité de la personne, la fragilité du logement, la fragilité des équipements, la réponse que les équipements doivent apporter à cette fragilité. Mais comment est-ce que l'ergo peut travailler s'il n'a pas à sa disposition une base de données, s'il n'a pas à sa disposition un référentiel des différents produits qui ont l'air proches et qui en réalité peuvent être très différents? C'est ce qui manque aujourd'hui. Pour répondre aux attentes des familles et des professionnels, un vrai système d'information, indépendant des industriels, indépendant des consommateurs ou des usagers, et qui soit un système d'information qui présente les données sur les différents produits. Je crois que, sans insister, vous le connaissez tous par cœur pratiquement, le rapport de l'IGAS a clairement fait le point sur ce système-là. L'enjeu du système d'information est clair, c'est regrouper toutes les expertises qui existent aujourd'hui, les centres experts, le CSTB, les différents experts qui interviennent, les ergos ou les autres professionnels de santé qui se sont fait leur propre système d'information, être capable d'avoir une architecture ouverte, qui ne soit pas un système de pouvoir des uns sur les autres, mais qui soit un système de partage et d'échange des savoirs pour regrouper ces savoirs sur l'information précise de chaque produit. L'idée, c'est de présenter une information la plus complète possible, validée avec les industriels, validée avec les experts, validée avec les professionnels. Ça pose la question des périmètres. Question essentielle. De quoi parle-t-on? Et là, en France, ceux qui ont la chance de pouvoir comparer avec les autres systèmes européens, on est vraiment particuliers. On adore faire des catégories, des tiroirs, et sur le public, eh bien, si vous êtes handicapé, vous ne rentrez pas dans le vieillissement. Si vous êtes dans le vieillissement, vous sortez des handicapés après un certain âge. Vous n'y rentrez pas avant un certain âge. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un dispositif de prévention et d'aménagement d'un appartement pour le vieillissement. On se moque de savoir quelle est la nature de la fragilité. Notre responsabilité, je dirais, de citoyen, avant notre responsabilité de professionnel, c'est d'analyser la fragilité, quelle qu'elle soit, d'analyser la déficience, quelle qu'elle soit, pour voir par rapport à l'offre sur le marché, qu'est-ce qui correspond, quelle est l'offre la mieux adaptée, et encore une fois, laissons faire les professionnels qui, eux, feront le tri, entre guillemets, le tri, excusez-moi du mot, très malheureux, feront la sélection entre des offres plus adaptées à certains types de handicap et des offres plus adaptées à d'autres types de handicap. Ce n'est pas vrai qu'un fauteuil roulant répond à toutes les situations. Ce n'est pas vrai qu'un lit motorisé répond à toutes les situations. Il y a des lits qui sont des catastrophes, qui peuvent provoquer des accidents, etc. L'adéquation du mobilier ou de l'équipement au type de fragilité est, à mon avis, un enjeu décisif d'un système de référencement de ce type. Alors, quels équipements? Quel public? On l'a vu, le public le plus large, et on s'inscrit complètement dans une expression que j'aime beaucoup, PRPA, les populations âgées en risque de perte d'autonomie. C'est là où on peut intervenir en prévention, c'est là où on peut intervenir d'une façon efficace dessus. La deuxième notion, c'est quel équipement? Est-ce qu'on rentre dans les aides techniques de niveau 1, aides techniques de niveau 2, dispositifs médicaux 1, 2, 3, 3 bis, etc.? Non, c'est quoi ça? On a un appartement qui peut permettre le maintien à domicile de quelqu'un. Il faut absolument que les personnes qui aident à faire le choix, que les familles elles-mêmes, aient, entre guillemets, dans leur catalogue, toutes les formes d'aide possibles. De la robotique compagnon quand elle sera présente dans le domicile, ce qui pose un certain nombre de questions, au lit, à la douche, etc., mais bien sûr, à la gérontocnie, à la téléassistance, à la luminothérapie, aux différents dispositifs d'aide pour pouvoir avoir une vision globale de ce que l'on peut apporter à une personne et une famille à un moment donné. Et surtout, je suis sociologue de formation, la vision globale va permettre de faire des choix. Il y a des moments, ce n'est pas le lit qu'il faudra changer, c'est le système de capteurs ou téléassistance. Il y a des moments, ce n'est pas le dispositif de cuisine qu'il faudra aménager, mais mettre peut-être un robot compagnon qui puisse accompagner, etc. C'est-à-dire qu'ouvrir la variété des choix par une meilleure vision de la globalité de l'offre derrière, c'est une mission qui me paraît pratiquement incontournable par rapport à une base de ce type. L'apport que l'on peut avoir dans notre démarche, je précise, on en a bien conscience, il y a déjà eu 40 démarches du type très proches de la nôtre derrière. Qu'est-ce qu'on a de différent et qu'est-ce qu'on peut prétendre faire de plus? D'abord, le parterre que vous allez voir aujourd'hui autour de nous. Vous allez voir des réponses apportées aux besoins réels, ce qui veut dire qu'on est capable de partir des besoins réels, de les connaître, de les capter, de les faire remonter et de travailler dessus. Comment? En passant des conventions avec les principaux acteurs du terrain, les ergothérapeutes d'une part et l'ANFE très précisément, l'Association nationale française des ergothérapeutes, Éric Trouvé en parlera tout à l'heure, les artisans qui ont une sensibilité particulière pour le maintien à domicile à travers le label Handibat Développement, et Gabriel Desgroisse en parlera également, les parties sites internet dédiés avec la partie Patient World, entrepatient.com, pardon, qui va permettre de tout d'un coup associer 2 millions de patients à la réflexion sur un produit à un moment donné. C'est tout ça qui va faire que cette base va être construite en interaction complète avec les besoins du terrain. Elle ne peut exister qu'à partir du moment où un investissement méthodologique est fait. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une évaluation avec et par les personnes âgées, les usagers fragiles. Ceci ne se fait pas les doigts dans le nez. Et beaucoup de dispositifs qui prétendent avoir agréé, avoir testé les dispositifs qu'ils mettent sur le marché avec les usagers fragiles, on peut vraiment en douter. Quand on travaille avec les experts, quand on travaille sur la méthodologie d'expérimentation au domicile, il n'y a aucun cadre légal de référence aujourd'hui en France. Le COFRAC et le laboratoire d'essai ne s'appliquent pas au domicile. Les pratiques d'hospitalisation clinique ne s'appliquent pas au domicile. On est dans un vide à la fois juridique et réglementaire. Nous avons investi, avec l'aide du CNR, de la HAS, de l'ANESM, de l'AFNOR, sur un comité de rédaction qui a préparé un protocole, qui est un protocole qui va être testé sur notre première campagne d'expérimentation et qui va permettre d'avoir des règles qui rendent le résultat que nous allons obtenir avec les usagers fragiles, premièrement, si possible, le moins soumis à la maltraitance, comme on risque de l'avoir apparaître dans un certain nombre de tests avec des personnes fragiles. Il ne suffit pas de mettre des tablettes entre les mains et de les retirer après. Il faut savoir comment faire quelque chose de probant avec. Et deuxièmement, un résultat qui soit probant, qui montre l'usage que l'on peut faire derrière. Ça veut dire qu'à moins de 2 mois, 3 mois de manipulation, de tests, d'usure du produit entre les mains de la personne vieillissante, on ne démontre rien. Donc l'investissement méthodologique sur la qualité de l'expérimentation et des tests est fondamental par rapport à une démarche de ce type. Nous avons signé 3 partenariats, ou nous sommes en train, pardon pour en débattre, de signer 3 partenariats exemplaires qui reprennent un petit peu ce que je suis en train de dire. La deuxième force que nous avons, c'est l'équipe. Je dirais, on ne s'est pas trompé de voilure. Le chef de projet lui-même est un ingénieur, mais le chef de produit est une ergothérapeute. Moi-même, je suis sociologue, et la responsable de l'éthique et de la campagne de test est une ergonome, docteur en ergonomie. Ça veut dire que vous avez les 3 professions, je dirais, du service, de l'accompagnement, qui sont au cœur de la décision du produit. Et vous avez, bien sûr, les infographistes, le développement, etc., qui sont la réponse apportée à l'usager. Et vous voyez qu'on remet en place la logistique même de développement. Un peu comme quand, dans un développement informatique, le chef de projet est un utilisateur, ça change complètement la mesure et l'évaluation du résultat. 2 réseaux, un réseau d'experts capables de porter des expertises techniques sur les produits, un réseau de veilleurs capables de détecter les innovations dans 7 pays européens et de les faire remonter pour qu'on puisse les tester et les rentrer dans la base. La base elle-même, pour chaque produit, présente 20 rubriques. Elles ne seront jamais toutes renseignées en même temps au début par l'industriel, mais on est dans un dispositif apprenant. Mais il nous paraît essentiel que ces rubriques soient renseignées, soient disponibles pour être à la disposition de ceux qui auront à conseiller tel ou tel outil, tel ou tel produit, tel ou tel dispositif. Vous pourrez, par la suite, si vous mettez en relation avec nous, avoir la totalité, bien sûr, de l'information, du cahier des charges et tout de la base. Sur la notion de référencement, on s'inscrit complètement, et ce n'est pas par hasard, dans ce que disait Patrick Maléa derrière. Le référencement, c'est 5 éléments importants. La qualité de l'information. Notre information est vérifiée, validée, contrôlée, sa conformité par rapport aux notices et aux produits est garantie par un expert qui signe son expertise. La qualité de l'écosystème autour, que le produit soit maintenu, accompagné, distribué, etc., et qu'on puisse, quand un ergo recommande, prescrit un produit donné, avoir la garantie que dans 2 ans, 3 ans, ce produit sera toujours maintenu, suivi, développé, etc., derrière, pour ne pas mettre en catastrophe et envoyer dans le mur une famille, une caisse de retraite, une mutuelle, etc., et tout, qui aura investi sur un produit donné. L'avis de l'expertise, l'avis de l'ergo, l'avis de l'usager fragile. Ces 5 informations regroupées en même temps sur un même produit, accessibles gratuitement à tout le monde sur un site internet et accessibles d'une façon plus professionnelle sur abonnement pour les professionnels qui veulent aller plus loin, qui est le cœur de la base. La campagne de test avec les usagers fragiles, vous vous doutez, est une pièce maîtresse du dispositif. C'est ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et nous avons décidé de nous affronter à ce problème. Je suis membre de la Haute Autorité de Santé, ça fait 9 ans que je travaille sur la certification des établissements de santé et c'est un dispositif comparable qu'on veut mettre en place, un dispositif apprenant qui fasse masse. 300 équipements, 1000 usagers pendant 2 mois sur 3 sites regroupés à Laval et une maison de retraite exemplaire, le Sigma et 2 autres EHPAD. Un living lab, celui de la Technopole, et un plateau technique que l'on regroupe nous-mêmes. Des professionnels autour, et une expérimentation qui va forcément entraîner la revalorisation du rôle de l'usager dans toutes les campagnes d'expérimentation derrière. Un processus de référencement, et j'aurai terminé, chaque étape correspondra à une intervention de la journée, en 7 parties, qui regroupe ce que l'on vient de dire. Chaque partie a naturellement ses propres règles et références, mais surtout, chaque partie a un dispositif opposable, extérieur, et nous soumettons l'ensemble de notre processus de référencement à un tiers extérieur de confiance qui va pouvoir contrôler que nous-mêmes respectons bien la procédure qu'on a définie et attirer l'attention du public, des experts et des usagers sur les risques, éventuellement les évolutions qu'il faut prévoir au système. C'est ça le cœur de ce que l'on vous propose aujourd'hui. Et merci de votre présence.
Je cède la parole à Vincent.
Donc, petits aménagements techniques. Donc, pour ceux qui n'ont pas constaté en arrivant dans la salle, moi je suis non-voyant, ce qui explique que je suis relié à mon oreillette. Et c'est ma collègue, Madame Dave, qui va faire circuler le PowerPoint et éventuellement pointer l'une ou l'autre chose à montrer de façon plus précise.
Elle est prête.
Elle est prête, merci. Bien, mais je suis ravi d'être... d'avoir été invité ici. Je remercie M. Mousnier pour cette invitation. Je suis venu de Namur, en Wallonie, pour vous parler d'adaptabilité du logement et d'un concept, justement, sur lequel nous travaillons depuis une série d'années et sur une action qui a été lancée par une série de partenaires en région wallonne. Alors, peut-être un petit mot pour présenter l'organisme que j'ai la chance de diriger. C'est une association sans but lucratif qui s'appelle GAMA. GAMA, ça signifie groupe d'action pour une meilleure accessibilité aux personnes handicapées. Je sais qu'en France, on aime bien les acronymes, donc en général, ça marche bien quand on parle de GAMA. Alors, à l'époque, c'est un organisme qui a une 30aine d'années et qui est né de la militance autour justement du droit pour les personnes handicapées. Maintenant, nos actions sont beaucoup plus calme, on va dire, qu'à l'époque. Et donc, nous utilisons quatre moyens pour atteindre notre objectif, qui est de rendre de l'autonomie ou d'en donner. Donc, nous faisons du conseil, nous faisons de la formation, de l'évaluation et encore de l'interpellation ou de la sensibilisation. Et cela notamment auprès des concepteurs, architectes ou décideurs politiques. Le public avec lequel nous travaillons est essentiellement un public de professionnels du bâtiment ou du cadre bâti, dans le but justement de faire avancer les questions d'accessibilité qui, si elles sont bien présentes en Belgique et en Wallonie en particulier, ne possèdent pas le cadre réglementaire qu'elles peuvent avoir ici en France depuis la loi de 2005. Alors, je suis au niveau du projet que je viens vous présenter, qui s'appelle Construire adaptable. C'est un projet qui est mené par une série de partenaires. Et ça, c'est assez important de les citer et de bien les identifier, parce que pour nous, c'est une première de fonctionner ensemble. Donc, comme je l'ai dit, moi, je viens du secteur associatif, du secteur de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite. Et donc, plusieurs de nos associations ou des associations sœurs se sont fédérées au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles. Il ne vous aura pas échappé que la Belgique, ce n'est pas beaucoup plus simple que la France. Je dirais même que c'est beaucoup plus compliqué. Nous avons des régions qui ne s'entendent pas forcément. En plus, nous avons des communautés francophones, néerlandophones, etc. Et donc, notre collectif d'associations couvre le territoire francophone de la Belgique, donc la Wallonie et Bruxelles. Et notre collectif d'association s'est allié avec le secteur de la construction et le secteur scientifique. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve dans notre action des partenaires comme la Confédération Wallonne de la Construction, l'IFAPME, qui est un centre de formation pour les petites et moyennes entreprises, le Centre scientifique en technologie de la construction, un centre interdisciplinaire de formation de formateurs de l'Université de Liège, ainsi que l'Union Wallonne des architectes et la Société Wallonne du logement qui a été consultée tout au cours du processus d'élaboration du projet Construire adaptable dont je vais vous parler juste après. Alors évidemment, un partenaire qui s'est rajouté et intéressé à la cause, c'est le pouvoir politique, la région Wallonne, puisque comme on l'a déjà évoqué ici au début de ce colloque, l'objectif c'est bien sûr le maintien à domicile. L'objectif, c'est de faire des économies parce que jamais on ne pourra se payer l'adaptation de logement pour tout le monde. Jamais on ne pourra se payer les maisons de repos pour mettre toutes ces personnes vieillissantes. C'est totalement impossible. Il faut qu'on agisse effectivement. Alors, l'action Construire adaptable, elle vise deux grands objectifs. D'abord, c'est encourager la construction et la rénovation de logements dits adaptables. J'y viendrai un peu plus loin pour qu'on soit bien d'accord sur ce que renferme ce concept. Et deuxièmement, faire connaître aux maîtres de l'ouvrage, mais également à aux futurs propriétaires, peu importe leur âge, les professionnels qui sont formés à l'adaptabilité du logement, qui sont en capacité de construire quelque chose qui répondra à leurs besoins. Alors, le départ de cette aventure et de ce projet Construire adaptable, c'est un guide qui a été réalisé il y a maintenant 5 ans. Donc c'est le guide pour la construction d'un logement adaptable, dont je possède d'ailleurs un exemplaire ici. Donc si après le colloque, il y en a qui souhaitent le parcourir, il est ici à disposition. Et donc c'est un guide qui a été rédigé par les partenaires que j'ai cités tout à l'heure et qui a pour objectif de donner des pistes très concrètes pour construire un logement dit adaptable. Et il s'adresse évidemment à tous les professionnels qui tournent autour du bâtiment, que ce soit des architectes, que ce soit des entrepreneurs, également les décideurs locaux, mais encore des collectifs d'associations comme celui que je représente, parce que c'est un excellent moyen pour convaincre, pour faire connaître, pour faire entendre que l'adaptabilité du logement, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est quelque chose de tout à fait réel et de relativement simple à mettre en place. Alors, ce guide a été, donc je l'ai dit, réalisé en 2008. Il contient toute une série de chapitres très complets, avec des fiches sur les équipements nécessaires, avec des fiches aménagement qui regroupent les différents équipements dans une même pièce, comment gagner le maximum de places dans un logement pour que ce logement reste aux normes et puisse accueillir dans sa phase adaptée une personne avec une grosse réduction de mobilité. Donc ce guide, je disais, a été réalisé il y a 5 ans, mais on a constaté que ce n'était pas suffisant. On a eu l'impression pendant tout un temps que c'était un guide de plus, des normes en plus, des conseils en plus, et on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait aider le public qui est concerné par la mise en œuvre de l'adaptabilité, donc aider ce public à s'approprier ces normes justement, et donc on est rentré dans ce processus de formation et d'information dont je vous parlerai plus tard. Alors, pour la petite information, ce guide est également téléchargeable en format informatique sur le site de notre action qui s'appelle construire-adaptable.be. N'hésitez pas, c'est gratuit. L'objectif est vraiment que le savoir se propage. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en termes d'adaptabilité, de conseils en aménagement pour ces populations vieillissantes, les frontières n'existent pas. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la notion de logement adaptable ? En fait, on a décidé de travailler sur ce concept-là parce que, justement, on vivait une situation complètement paradoxale, c'était celle de devoir régulièrement désadapter des logements qui avaient été conçus pour un public cible, notamment dans le cas des logements sociaux, logements publics, où on construisait jusqu'à il y a peu des logements avec, entre guillemets, pour personnes handicapées ou pour personnes à mobilité réduite. Lorsque ces personnes handicapées quittaient le logement ou décédaient malheureusement, ces logements ou bien n'étaient plus occupés parce qu'on n'avait pas de clients pour ce logement-là, étaient réaffectés pour une autre personne handicapée et ne correspondaient pas à ses besoins. Et donc on devait, je vais dire vraiment, casser parfois des cloisons, des murs qui avaient été construits, des cuisines qui avaient été placées, et pour en remettre une qui correspondait à des besoins différents. Évidemment, les pouvoirs publics trouvent que c'est de l'investissement qui n'est pas rentable, et donc on a voulu faire la démarche inverse. On s'est dit, tiens, pour qu'un logement puisse s'adapter le plus facilement possible à un grand nombre de besoins, on doit définir quelles sont ces normes d'adaptabilité. Et donc on est arrivé à la définition du logement adaptable, qui est en fait un logement bien implanté, accessible en transport en commun, accessible jusqu'à ses abords, jusqu'à son entrée, mais qui à l'intérieur permettra, avec des aménagements très simples et quelques clés de conception relativement aisées à mettre en œuvre, d'être adapté aux besoins de publics spécifiques, qu'ils soient avec une forte réduction de mobilité ou simplement vieillissants. C'est comme ça que l'on a réussi à ancrer petit à petit dans l'esprit de nos décideurs politiques comme chez les professionnels du bâtiment, la notion de passer par le cap de l'adaptable avant d'aller au cap de l'adapté. Alors, pour illustrer rapidement, moi je ne suis pas technicien ni architecte, mais on a ici deux illustrations qui expliquent un petit peu ce que l'on veut dire par logement adaptable et par logement adapté. Donc vous voyez, si ma collègue suit bien ce que je raconte, vous voyez que sur l'illustration, vous avez un logement adaptable. Et donc on voit que sur cette illustration, il y a des cloisons qui sont de couleur brune. Ça c'est parce que je l'ai noté, parce que je ne le vois pas évidemment. Et qui peuvent être enlevées. Et ça, on le voit à ce moment-là sur l'illustration suivante. Donc vous aviez une cloison entre la toilette et la salle de bain. Et lorsque on démonte simplement cette cloison, on retrouve un espace beaucoup plus grand qui, lui, peut être utilisé par une personne qui a une forte réduction de mobilité, qui est en fait le cas type qui nous a servi à définir nos normes, donc la personne qui utilise un fauteuil roulant. On a le même principe de cloison qui est placée entre deux chambres. Et ces cloisons étant amovibles, ça permet à ce moment-là, dans la version adaptée du logement, d'avoir un grand espace avec les aires de rotation qui peuvent desservir tous les équipements de la chambre. On a aussi sur ces illustrations des meubles qui sont présents dans la version dite adaptable, placard, grand placard démontable dans le hall d'entrée, dans la toilette par exemple. Eh bien, dans la version adaptée, il suffit de les démonter et on retrouve également les aires de rotation qui sont nécessaires pour le déplacement dans le logement. C'est la notion donc d'espace réservé. Ces espaces ne doivent pas être présents au moment où l'on construit, où on occupe le logement. Ils doivent simplement être récupérables de façon aisée pour répondre éventuellement à des besoins spécifiques. Alors, mais comme ici, je ne vais pas m'y attarder de trop puisqu'on a, on a déjà fait ces constats. Si on a décidé de travailler sur le logement adaptable plutôt que le logement adapté, c'est parce qu'au-delà du handicap, il y a ce défi du vieillissement de la population. Et donc ici, on a une illustration avec la pyramide des âges à quatre moments différents. Et on voit vraiment que depuis les fins des années 1800 jusqu'en 2025, elle a une forme qui évolue très très fortement. Et donc la base était très large. Et maintenant, elle commence à ressembler presque à un hexagone, hein, presque à la France, va-t-on dire, avec un petit morceau en moins. Mais toujours est-il qu'on constate effectivement que la population vieillit et que nos jeunes deviennent vieux et que nous avons de moins en moins de jeunes, justement. Alors, au-delà du vieillissement de la population, si on veut construire un logement dans la durée, on doit tenir compte que nous ne sommes pas tous les mêmes. À un moment donné, ici, maintenant, nous avons tous des différences, que nous soyons des différences hommes-femmes, que nous soyons debout, assis, petits, grands. Et donc, l'architecte va toujours vous dire qu'il construit pour que son client soit heureux dans son logement. Mais son client, il change. Son client, il a une famille. Son client, il est évolutif, lui aussi. Et donc, l'architecture doit s'adapter aux besoins des occupants d'un logement. Enfin, comme je l'ai dit, une personne ne reste pas non plus identique à elle-même dans le temps. Et donc ici, vous avez une illustration avec ce podium où on voit qu'au début de la vie, les occupants d'un logement peuvent avoir besoin justement de faire passer des landaux, des poussettes. Et puis plus tard, on devient adolescent, puis on est le jeune couple, et là, c'est le sommet de la pyramide. Là, on est valide, on a toutes nos capacités. Et c'est en même temps là qu'on a souvent aussi le pouvoir d'achat qui commence. C'est là qu'on envisage d'investir et c'est là qu'on fait les erreurs. Parce que comme vous voyez, le podium, il redescend. Et on vieillit. Alors on ne finit pas tous toujours dans un fauteuil roulant, heureusement, mais donc on évolue malgré tout. Et si on veut rester dans son logement, on doit en tenir compte, sinon on va être obligé au fur et à mesure de notre avancement dans l'existence de changer de logement. Alors, donc nous pouvons maintenant, tout doucement, sur base de ces constats, imaginer que le logement adaptable, ça pourrait, ou c'est, on va le voir plus loin, une réponse pour le défi du maintien à domicile. Mais l'architecture a dû se questionner, doit continuer à se questionner, justement, pour répondre à ces nouveaux enjeux. Alors, évidemment, ça, c'est un peu la tarte à la crème, le développement durable, comme vous le voyez sur le slide. Mais malgré tout, on est obligé d'en tenir compte. On ne peut plus non plus envisager de construire comme on l'a fait, n'importe comment, avec une série de matériaux qu'il faut éventuellement détruire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le logement adaptable s'inscrit quand même relativement bien dans cette logique de durabilité, avec les trois points importants qu'il faut rencontrer, les aspects sociaux, puisque un logement adaptable, bien sûr, ça permet de rester à domicile, ça permet de garder ses relations, ça permet de garder son tissu relationnel, de rester dans l'activité et dans les activités où nous avons peut-être grandi depuis toujours. Au niveau économique, bien sûr, l'objectif, c'est qu'avec l'adaptabilité, lorsqu'on doit faire des adaptations, elles coûtent bien moins cher, puisque la mise en œuvre est beaucoup plus légère. Et enfin, au niveau environnemental, le fait de pouvoir générer relativement peu de déchets tout au long de l'existence du logement, dû au fait que les transformations sont légères, est un point relativement important. Alors, sur base de constat de ces différentes problématiques, on a lancé l'action Construire adaptable. Alors, elle s'adresse aux professionnels du bâtiment qui désirent construire du logement, des architectes, donc on a dit, architectes d'intérieur, parce que l'aménagement du logement aussi concerne cette catégorie de profession, les bureaux d'études, des entreprises du bâtiment, et là on aura aussi un témoignage de Handibat qui est encore plus loin que nous au niveau des entrepreneurs et des artisans. Les sociétés de logement public, j'y reviendrai plus loin parce que là, il y a eu une avancée majeure chez nous en Wallonie et c'est relativement intéressant pour notre action. Et les ergothérapeutes qui sont les personnes qui vont vraiment pouvoir cibler quels sont les besoins de telle ou telle personne en particulier. Alors, cette action Construire adaptable, elle est basée sur des grands principes. Elle est basée sur un engagement volontaire de professionnels qui veulent pouvoir bénéficier d'une offre de formation, savoir comment on fait pour construire adaptable, qui veulent pouvoir faire savoir qu'ils ont été formés, et donc, faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire connaître à des maîtres de l'ouvrage qu'ils sont sur le marché et qu'ils ont les compétences pour. C'est pour ça qu'on a mis en place un annuaire des professionnels, que ce qu'on appelle chez nous les professionnels partenaires. L'action Construire adaptable permet également à ces professionnels partenaires de bénéficier d'une guidance technique si, après avoir été formés, ils construisent un logement et qu'ils veulent être accompagnés, va-t-on dire, jusqu'à la réception du logement pour être certains d'être dans que ce qu'ils mettent en place répond bien aux critères de l'adaptabilité qui ont été définis dans notre guide dont j'ai parlé plus tôt. Et enfin, lorsque le logement est réalisé, nous proposons, à travers cette action, d'attester ce logement, donc de lui remettre un certificat de conformité, certificat qui aura pour but de valoriser le logement en cas de location ou de revente du bien, éventuellement. Le maître de cérémonie me demande d'aller plus vite. Je vais essayer. Alors, je reprends les grands points que nous proposons justement aux professionnels partenaires lorsqu'ils s'inscrivent dans notre action Construire adaptable. Un, c'est la formation. Pour les formations, on va avoir trois types de formations. Des formations génériques, qui sont donc en fait des formations qui expliquent bien ce qu'est l'adaptabilité, et qui définissent les grands critères transversaux qu'on doit mettre en œuvre lorsqu'on construit. Mais alors aussi des formations thématiques. Parce que ce projet Construire adaptable est un laboratoire. Et donc on constate déjà, on est face à des problématiques qu'on n'avait peut-être pas imaginées au départ. Exemple, la passivité des logements. Peut-on construire une maison passive et pourtant accessible et adaptable? Parce qu'on a la problématique des seuils, il faut l'étanchéité à l'air. Et pour avoir une bonne étanchéité à l'air, il faut un seuil à la porte d'entrée. Voilà, donc les concepteurs reviennent chez nous en disant « Oui, d'accord, vous voulez de l'adaptabilité, vous voulez de l'accessibilité, mais c'est peut-être pas possible quand on construit une maison passive. » Bien sûr, ça l'est. Donc le centre scientifique des techniques de la construction met en place une cellule de recherche et lorsque on aura établi la méthodologie pour construire correctement une maison passive en la laissant adaptable, on donnera une formation aux professionnels partenaires qui sont revenus vers nous avec ces thématiques. On donne une troisième sorte de formation qui sont des formations spécifiques vers des publics cibles, plutôt par catégorie de métiers à ce moment-là. Alors, La deuxième chose que nous proposons, c'est l'accompagnement d'un professionnel qui désire construire un logement et recevoir une attestation, j'en parlerai juste après. Et donc à ce moment-là, il suffit donc de remplir les formalités d'usage, va-t-on dire, et une équipe d'experts. Donc les experts viennent du secteur associatif professionnalisé en accessibilité. Et donc ces experts vont à ce moment-là sur le terrain rencontrer les architectes, vont sur les chantiers et vont parfois rattraper la sauce, comme on dit, s'il en est encore temps, ou si on est au niveau de l'avant-projet, vont pouvoir à ce moment-là donner tous les conseils pour que le projet soit aux normes de l'adaptabilité. Alors, si les critères techniques ont été respectés, on peut attester le logement. Et là, on a défini trois niveaux d'attestation. Le niveau A, le niveau A+, et le niveau A++. Donc on se doute bien que le dernier est meilleur que le premier. Pourquoi avons-nous fait trois niveaux ? Parce qu'on travaille également avec des logements en rénovation. Et en rénovation, c'est très difficile d'atteindre d'excellentes performances en termes d'adaptabilité. Donc on a voulu pouvoir attester quand même des logements qui avaient de bonnes capacités d'adaptabilité, mais qui n'étaient peut-être pas parfaites. Ce qui distingue les trois niveaux d'attestation, c'est le nombre de pièces qui sont rendues adaptables. L'attestation A est délivrée pour une unité de vie dite qui répond aux critères, pardon. L'unité de vie, c'est donc séjour, cuisine, sanitaire, salle de bain, couloir et une chambre principale. Lorsque on a en plus de cela un autre espace, que ce soit la terrasse, une deuxième chambre, un bureau, etc., qui est rendu également qui est mis en conformité avec les critères de l'adaptabilité, on a une attestation A+. Et si c'est l'ensemble du logement, toutes les pièces à ce moment-là qui sont adaptables, on aura la troisième sorte, le troisième type d'attestation. Alors, quels sont qui peut participer à cette action de construire avec construire adaptable, pardon? Eh bien, donc les professionnels partenaires, bien sûr, qui se sont inscrits dans la démarche, qui ont un logement neuf ou à rénover qui est situé en Wallonie. Ceci dit, on serait tout à fait prêt à venir partager notre expérience, hein, comme on le fait aujourd'hui en France. Et alors, il faut bien sûr respecter les critères techniques qui sont définis dans le guide ici et dans une charte que vous trouvez sur le site construireadaptable.be. Alors, ces critères techniques, quels sont-ils? Et là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y en a quelques-uns qui sont importants. D'abord, bien sûr, c'est le respect de la législation. Si on est dans le cadre de logements, d'immeubles logements multiples, la législation chez nous impose des normes d'accessibilité jusqu'à l'entrée des logements, donc elles doivent bien sûr être respectées. Elle impose des normes d'accessibilité aussi aux alentours des logements, et donc là, bien sûr, tout ça doit être fait. S'il s'agit de logements publics, il faut que ces logements répondent aux critères de l'arrêté du gouvernement wallon, qui n'est pas encore sorti, mais qui est en deuxième lecture au gouvernement ce mois-ci, et qui sortira pour le mois de janvier 2014. Alors, que dit cet arrêté du gouvernement wallon? Ça, c'est quand même très intéressant, puisque c'est là qu'on voit que le politique a saisi l'importance de la chose. Cet arrêté définit que dans toute construction de logements publics, à partir de maintenant, il faut 30% de logements adaptables. Il a retiré le mot de logement adapté. Avant, on construisait des logements PMR, des logements adaptés, ou encore, comme on disait, des logements pour personnes handicapées. Maintenant, ça a été retiré, on parle de logements adaptables. Et d'un seul coup, c'est sûr que ça doit encore progresser, mais on s'attendait à avoir une démarche plus lente, où on allait parler de 5, 10 ou 15% de logements adaptables. Ici, le ministre du Logement a voulu mettre un grand pas, et pour la première fois, on a une imposition dans toute construction de logements publics d'avoir 30% de logements qui sont adaptables et qui donc répondent aux normes de l'adaptabilité définies dans le guide, avec une sévérité un peu plus grande encore pour ces logements. C'est rare quand le pouvoir public va au-delà des demandes du secteur. Enfin, profitons-en. Là, l'unité de vie doit être sur le même niveau, très difficile à réaliser puisque bien souvent les chambres sont à l'étage. Donc ça va peut-être exclure une série de logements. Donc il faut qu'en général ce soit des appartements. Et également, le pouvoir public impose qu'il y ait d'emblée à la construction une douche de plein pied dans le logement. Alors, au niveau des critères techniques, Il y en a évidemment énormément. Dans la documentation qui vous a été transmise ou qui va vous être transmise, vous trouverez un résumé de ces critères. On a souhaité nous les séparer en deux catégories, les critères indispensables et les critères souhaitables. Donc les critères indispensables, ce sont des critères techniques qui tiennent compte des largeurs, des hauteurs, du revêtement de sol. Ce sont des critères qui doivent être absolument présents à la construction du logement. Et tous ces critères doivent être rencontrés à hauteur de 100%. Il n'y en a pas un seul qui peut échapper pour obtenir l'attestation dont je parlais tout à l'heure. Par contre, il y a toute une série de critères qui sont dits souhaitables. Et donc là, ce sont des critères qui vont rencontrer plutôt des normes de confort. Et ces critères-là doivent être rencontrés à hauteur de 75% pour un logement neuf et 50% pour un logement à rénover. Si vous parcourez le guide logement adaptable, vous verrez justement qu'il y a une distinction dans ces critères. Alors, adopter l'adaptable, pour conclure, c'est une nouvelle façon justement de faire du logement, mais c'est une façon de faire du logement qui permet de répondre aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite, de faire face aux défis qu'est cette révolution grise qui nous arrive, et qui répond également au concept de développement durable duquel on ne peut plus se passer pour le moment. Alors ce sont des normes parfois exigeantes, mais qui tiennent compte des besoins des plus vulnérables. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire chez nous, qui peut le plus, peut le moins. Là où la personne qui a le plus d'exigences rencontre ses attentes, bien sûr, la personne qui en a le moins est servie aussi. Peut-être un petit mot pour conclure définitivement avant de recéder la parole, c'est que l'action, elle est lancée maintenant depuis un peu plus d'un an, et que nous nous sommes heurtés, parce que là c'est des principes théoriques que je vous ai donnés, nous nous sommes heurtés au principe de réalité qui est comment fait-on réellement pour changer la vision des concepteurs sur l'adaptabilité. On a beau les rencontrer et en parler, il y en a beaucoup qui, sur leur plan de logement adapté, ont collé l'étiquette adaptable parce que ça devient tout doucement à la mode, mais qui n'ont pas encore compris. Et donc on a pour le moment un peu mis de côté notre rêve qui était de voir sortir de terre très rapidement des logements adaptables. Ça ne marche pas tout de suite, il faut convaincre. Donc ce que l'on fait maintenant, c'est que l'on travaille avec des professionnels qui ont des projets en cours et qui vont arriver à faire une salle de bain adaptable, qui vont arriver à faire une cuisine adaptable, qui vont arriver à faire des circulations adaptables, mais on n'aura peut-être pas encore des attestations complètes qui vont couvrir l'entièreté du logement. Ça, c'est peut-être pour dans un an, deux ans, trois ans. On est obligé de fonctionner par petits points. Mais la stimulation et l'émulation que ça provoque est en train de porter ses fruits. Dans les séances d'information que nous avons réalisées tout dernièrement, nous avons rencontré beaucoup d'architectes et de concepteurs. Notre base de données de professionnels partenaires est riche d'à peu près 150 professionnels pour le moment, ce qui, à l'échelle de la Wallonie, est quand même conséquent. Rappelez-vous que la Wallonie, c'est un petit département français. Donc 150 professionnels partenaires. Nous suivons pour le moment une vingtaine de projets en cours de réalisation. Il y en a qui sortent de terre. Et signal très fort et très important pour nous, de très très gros promoteurs immobiliers s'intéressent à la cause, non pas parce qu'ils s'inquiètent des personnes qui vont occuper leur logement, mais ils veulent vendre des logements et ils ont bien compris qu'un logement adaptable répond à toute une série de problématiques bien plus vastes que celles du logement adapté. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Un grand merci, Vincent. On est frustré, bien sûr, parce qu'on aimerait passer beaucoup plus de temps sur chaque détail, mais en vous regardant, je vois que ça ne vous a pas échappé, de ce que vous avez dit, d'une comparaison de l'état de l'art en France aujourd'hui et de ce qui se passe en Wallonie, de comme on pourrait le faire avec le Danemark ou avec l'Autriche. Je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant et vous pourrez trouver sur Ecolab la suite de cette discussion, les documents références et des comparaisons France-Wallonie qui nous semblent très pertinentes sur ce domaine. Pour continuer sur le côté de l'adapté-adaptable, si Annette le permet, avant de passer au Danemark, je voudrais passer la parole à Gabriel Desgouas qui depuis plus de 20 ans défend, porte haut et bas le label qu'il a contribué à créer, le label Handibat. Gabriel, à toi la parole.
Attention. Ça marche ? Oui, ça marche. Merci Jean-Philippe de me passer la parole à ce moment-là, parce que je partage depuis le début de l'après-midi, enfin milieu de l'après-midi, pratiquement tout. Je vais donner rendez-vous à Vincent tout début janvier pour partager. Nous nous sommes vus, pour rien vous cacher, il y a 6 mois. Et une recette que j'applique moi en France pour que ça aille plus vite. Je fais du lobbying auprès des centres de formation pour que les élèves qui sortent de nos centres refusent de faire quand c'est pas la loi et dans le bon sens. Donc tu vois, c'est une chose, je suppose que les jeunes en Belgique, tu les formes comme nous. Et je pense que...
Mais vous, vous avez une loi très très forte, donc ça aide beaucoup.
Je vais aller la promouvoir chez toi, je te promets, je te donnerai un coup de main. Rapidement... Handibat, c'est, contrairement à ce que son nom indique, c'est tout le champ, ça couvre tout le champ de l'accessibilité, du bâti et de la chaîne de déplacement. C'est-à-dire qu'on a commencé, comme le disait Jean-Philippe, il y a longtemps maintenant, parce que presque 20 ans, voire au-delà en ce qui me concerne. Et à l'époque, on a été sollicité pour promouvoir cette marque Handibat, qui était à l'origine de deux personnes en fauteuil, qui étaient venues me voir en me disant on a des travaux à faire dans le bâti et on trouve personne. Donc c'était le meilleur moyen de nous tirer l'oreille et de nous faire réagir. Donc le logo Handibat, c'est le mot Handibat, il a fallu que je le défende avant de défendre la cause. Je rappelle juste comme ça, Handibat ça veut juste dire la main dans le chapeau en anglais. Alors Handibat, moi je l'ai adapté, c'est handicap, c'est la main dans le chapeau, 18e siècle pour les courses de chevaux, pour ceux qui font un peu d'histoire. Donc ça n'a rien à voir du tout avec la personne en fauteuil que tout le monde imagine. Donc il a fallu déjà imposer ça. Maintenant que c'est fait... Nous, on a découvert que les personnes avaient besoin de nos mains, alors on leur a offert nos mains. Nous sommes des personnes qualifiées, les gens du bâtiment peuvent tout faire. Depuis la nuit des temps, on construit, depuis qu'on est sorti des cavernes, c'est nous qui construisons, donc on sait faire. Et aujourd'hui, j'ose dire qu'on sait tout faire, puisque les technologies nous offrent tout ce qu'on ne peut pas faire manuellement, on l'aide par la nouvelle technologie et l'industrie. Donc on a devant nous tout ce qu'on peut permettre pour vivre mieux dans le confort et dans la chaîne de déplacement. Ça concerne tous nos métiers du bâtiment. Je vous encourage à aller faire un tour sur le site Handibat, comme ça vous verrez tout ce qu'on offre. Ça couvre tout le champ de la construction et ça couvre tous les métiers. Et le but du jeu pour nous, c'est de tendre vers le beau, le bâti éco-accessible universel. Le bâti parce que c'est nous, l'éco parce que Vincent en a fait un petit couplet sur le développement durable, l'accessibilité du A, c'est l'accessibilité de tout à tous, et puis l'universalité, parce que faut pas se cantonner à simplement vivre chez soi, faut pouvoir en sortir et profiter de tout. Sur ce salon aujourd'hui, on voit que l'informatique et la domotique nous rejoint à grands pas, et ça sera encore plus vrai demain. Mais derrière pour tout ça, il faut qu'il y ait quand même des gens qui offrent leurs services, leur savoir-faire, leurs compétences, leurs qualifications. Et c'est ce que nous avons choisi, nous, artisans du bâtiment, dans une démarche volontaire, déontologique, et entrer dans un cercle vertueux qui va s'étaler sur le long terme. On n'a rien inventé, on n'a amené que notre savoir-faire. On s'est entouré, au départ, pour remplir nos formations, de ceux qui étaient avec nous autour de la table, c'est-à-dire les ergothérapeutes, c'est-à-dire les blouses blanches, le monde médical. On a mis aussi les associations de retraités, les associations diverses et variées du monde handicap, et Dieu sait qu'il y en a, et heureusement qu'il y en a. Et c'est grâce à elles, parce qu'elles nous ont expliqué ce dont elles avaient besoin. C'est pas le tout de savoir, je peux tout faire, de le dire, de le savoir faire. Mais pourquoi faire? Eh bien, sachez qu'on a choisi, le monde de l'artisanat, a choisi de se regrouper derrière une bannière pour que le consommateur, le client, le patient puisse savoir qu'en face de lui, il a un chef d'entreprise qui a mis ses mains au service de ses besoins, mais qui sait de quoi parlent tous les intervenants, du médecin à l'ergo et à la personne concernée. On fait du lobbying auprès des industriels, donc ça je t'encouragerai à le faire aussi quand je te verrai au mois de... J'ai interpellé les fabricants de maisons qui m'ont demandé qui j'étais. Je leur ai dit, mais je suis simplement un citoyen qui fait du social à travers son travail. De l'économie, mais de l'économie sociale. Bon, ça ne leur a pas plu, j'ai quelques ennemis sur la place. Mais maintenant, ces gens-là reviennent me voir en me disant, on a fait un atout commercial de ce que vous promouvez. C'est-à-dire qu'on fait la promotion d'une chose et on interpelle. Parce que derrière le mot beau, il y a aussi la beauté. C'est pas parce qu'on est une personne vieillissante qu'on doit habiter une chambre qui ressemble à une maison de retraite, et pas parce qu'on est une personne malade ou une personne différente qu'on doit habiter une chambre d'hôpital. Donc notre combat, il est là. C'est pour ça qu'on a répondu à la sollicitation de Jean-Philippe et qu'on va participer aux travaux de labellisation ou de détection des produits. De toute façon, c'est nous qui les posons. Donc on pourra donner un avis sérieux et averti. Nous, ce qu'on veut, je vous l'ai dit rapidement, c'est le beau. Le bâti éco-accessible, universel, et derrière l'universalité, c'est l'accès de tout à tous. Sachez que ça existe quand vous voyez un entrepreneur qui se met derrière ou qui met en avant cette marque Handibat. C'est à ce genre de gens que vous avez affaire, c'est des gens qui font une démarche volontaire, qui s'engagent, qui respectent les délais. On ne va pas entamer la discussion sur la réputation des artisans. On les attend. Aujourd'hui, vous voulez le plombier aujourd'hui, il arrive dans 6 mois quand il arrive. Quand il n'envoie pas un message, voilà. Donc on a une réputation. Ça, c'est que ceux-là, pourquoi ceux-là? Parce qu'ils ont été contactés, interpellés un jour par des gens qui avaient besoin d'eux. Donc on a choisi, ensemble, avec l'aide de tous, de mettre nos mains au service de la personne, tout simplement et modestement. Par contre, on est convaincus, et sur toute la France, on est présent. On est présent sur toute la France, avec des gens motivés. En 2 ans, on a formé 5000 entreprises, et aujourd'hui, il y a 2200 qui sont en possession de se réfugier ou de promouvoir la marque Handibat. Alors, attachez pas trop d'importance à la marque Handibat. Handibat, c'est des hommes au service d'autres hommes, différents pour cela. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais il m'avait demandé de faire court. Le tout, c'est que vous rappeliez l'Handibat. Voilà.
Merci, Gabriel. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que la première démarche d'Ecolab a été de passer 2 conventions, de négocier 2 conventions, d'étudier la possibilité de faire 2 conventions avec les ergothérapeutes qui sont des pièces maîtresses du dispositif, mais également avec les artisans. La grande mode, c'est posée par l'acheteur, posée par l'utilisateur lui-même. Je veux bien, mais dans un certain nombre de cas, dans un très grand nombre de cas, un diagnostic préalable, le conseil d'un artisan est indispensable. Une barre d'appui, par exemple, qui s'arrache, c'est une fracture assurée. Toute la domotique demande aujourd'hui d'étudier une pièce pour poser des capteurs. Toute la partie d'aménagement, bien sûr, on pense à l'eau, au fluide, mais de gestion de l'espace derrière, demande l'expertise d'un artisan. C'est difficile parce qu'ils ont plusieurs corps de métier, c'est difficile parce que certains ne sont pas rassemblés sous la bannière Handibat, etc., qui est un label de qualité et de respect pour les personnes âgées, pour la fragilité des personnes âgées. Mais c'est dans ce sens qu'on veut aller, parce que eux, comme le dit très bien Gabriel, ils posent, donc ils peuvent nous renvoyer des informations sur vraiment la facilité d'un produit, sa capacité d'usage, etc. Mais soyons brefs, je suis heureux de passer maintenant la parole à Annette Bertelsen, excusez-moi, de l'ambassade du Danemark, qui travaille au sein de la mission économique et qui travaille sur le design et le rôle des utilisateurs, sur la création des produits au Danemark, mais également sur les interactions entre les entreprises françaises et les créateurs danois.
Je vais commencer 5, tranquillement 4, pendant 3, que 2, la présentation 1. Arrive. Bonjour tout le monde. Oui, je suis donc Annette Bertelsen, chargée des affaires de santé à l'ambassade du Danemark. Vous m'entendez? J'ai l'impression de ne pas m'entendre. Tout d'abord, merci d'avoir invité à participer à ce colloque. Je suis ravie de venir présenter, faire un retour d'expérience du Danemark, parler des technologies innovantes. Le Danemark a une... Oui, c'est ça. Ah, il ne veut pas l'ouvrir. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Oui, je continue. Oui, on a une longue tradition au Danemark, en fait, d'impliquer l'usager dans le travail d'innovation, et j'ai choisi quelques exemples pour vous. D'une part de la municipalité d'Aalborg et de l'autre de Copenhague. la prise en charge de la personne âgée est, comme en France, une des priorités du gouvernement danois et ça a été confirmé la semaine dernière. La loi de financement 2014 a été votée et 1 milliard de couronnes danoises a été votée. Un milliard supplémentaire, ça correspond à peu près à 135 millions d'euros sur les par an les 4 années à venir. Avant de vous présenter les exemples et le travail en matière d'innovation au Danemark, je voulais vous présenter le contexte danois parce qu'il est assez différent du système français. Et là, j'ai quand même envie d'attendre ma présentation pour continuer.
Vous savez peut-être, pour ceux qui étaient au salon IT Santé au mois de mai dernier à Paris, vu la maison de retraite du futur présentée par l'ambassade du Danemark. Et justement, dans cette maison de retraite du futur, on voyait toute la différence qu'il pouvait y avoir entre la méthode de conception et de sélection des produits adaptés au grand âge et au vieillissement, avec ce que présentait un certain nombre de fabricants français, dont 2 ou 3 sont présents dans la salle. Le but, en travaillant avec le Danemark, comme on le fait avec la Wallonie sur la construction, l'aménagement adaptable, c'est de se rapprocher des méthodes de co-conception, des méthodes d'association les plus innovantes pour mélanger, pour mutualiser, pour fertiliser justement les expériences des industriels français et des industriels danois. C'est dans ce sens qu'on a fait appel à Annette pour qu'elle puisse venir présenter le cœur même du système qui a permis de montrer la maison de retraite du futur.
Bon, c'est pas grave, je vais continuer sur le contexte danois. Au Danemark, il y a 3 niveaux administratifs. Et pour ce qui concerne la personne âgée, on a premièrement l'État qui définit la politique. Et ensuite, on a au Danemark 5 régions, le niveau inférieur, mais qui s'occupent surtout de l'offre hospitalière. Et en dernier, nous avons 98 municipalités qui ont donc le rôle de s'occuper de la prévention de manière générale et la prise en charge des personnes âgées. Donc, les municipalités jouent un rôle très important. Les principes de base de la prise en charge de la personne âgée au Danemark sont les suivantes.
Excusez-moi. Ah, est-ce que ça... Ça devrait marcher.
C'est un exemple classique, on teste, tout va bien et après... ah voilà, on peut avancer maintenant. Alors, ça... comment ça marche alors pour... maintenant? Ça marche pas avec les flèches? Pourquoi ça marche pas avec les flèches?
Tu as un problème d'affichage.
Ça va marcher maintenant ou...
Non, ça ne marche pas avec le pouce. Ça marche avec la souris.
Avec la souris.
Avec le clavier.
On va essayer. Bon, mais voilà. On y arrive. Les principes de base du contexte et la politique danoise. Alors. Ce qui est important de préciser, c'est que le point de départ, c'est qu'on veut donner les mêmes possibilités de vivre une vie digne et avoir une bonne qualité de vie à tout le monde. Ce qui veut dire qu'on essaye, dans la mesure du possible, de donner un maximum de moyens pour que les personnes soient autonomes. Donc ça peut être aussi bien des aides techniques. Et au Danemark, le système est différent. Nous avons des centres d'aide technique qui appartiennent donc à la municipalité ou à un sous-traitant privé, où on met à disposition, on prête tout simplement les aides techniques aux personnes qui en ont besoin. Après, quand ils n'ont plus besoin, pour X raisons, ils rendent le matériel et c'est une autre personne qui en profite. Donc il n'y a pas le même système de financement. Ensuite, il faut savoir que les logements les maisons de retraite pour personnes âgées sont principalement aussi publics. Il y a une garantie seulement de 2 mois d'attente maximum. Si la municipalité a donc envoyer un représentant et le résultat s'avère que cette personne-là doit avoir une place en maison de retraite. Il y a au Danemark une politique du libre choix, c'est-à-dire que la personne peut choisir entre les offres pour le soutien à domicile de la municipalité ou un prestataire privé et que la municipalité doit proposer ou faire de sorte à ce qu'il y a des choix différents, que vraiment la personne peut choisir elle-même. J'ai dit déjà qu'il y a un financement majoritairement public et gratuit. C'est à peu près 4% des frais de service à la personne et en maison de retraite qui sont financés par les citoyens. Ensuite, on arrive au fait que dans la politique, on voit le fait de mener une vie active comme quelque chose d'extrêmement important parce que ceci implique aussi que la personne va être autonome et vivre une vie indépendante plus longtemps. Et cela se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, on implique les seniors dans les décisions locales à travers les conseils de seniors. Et donc, ça veut dire que les municipalités doivent consulter ce conseil quand ils doivent décider, faire des choix par rapport qui concernent les personnes âgées. On a un petit peu évoqué le sujet déjà, tout ce qui est prévention, que c'est extrêmement important. Au Danemark, la municipalité doit proposer à chaque citoyen de 75 ans ou plus la possibilité de recevoir une personne de la municipalité qui peut donc faire un peu un bilan de la fragilité, à savoir s'il faut à ce moment-là accorder des aides techniques ou tout simplement prévoir des actions de prévention. Ah. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire que le soutien à domicile représente quand même une part importante dans le budget danois alloué aux personnes âgées, plus que ce qui concerne les maisons de retraite, et c'est plus de 1% du PIB danois qui est consacré au soutien à domicile. Le Danemark, quand vous regardez le graphe, alloue plus de moyens aussi au soutien au domicile que les pays avec lesquels le Danemark se compare habituellement. Et on l'a entendu également aujourd'hui que c'est extrêmement important et souvent le choix de la personne âgée de rester à domicile le plus longtemps possible. Donc on essaie vraiment de mettre en place des solutions et des systèmes pour favoriser cela. Au Danemark, on a fait un calcul pour ce qui est budget. Et en fait, on estime que si la personne a besoin de moins de 20 heures de soutien par semaine, en fait, c'est moins cher pour la municipalité de mettre tout dans à sa disposition pour que la personne puisse rester à domicile, comme c'est aussi souvent son choix. Alors, pour ce qui concerne les technologies du bien-être et de l'autonomie, c'est vrai que c'est un outil extrêmement important pour répondre aux défis futurs. Il y a une vraie volonté du gouvernement danois de les promouvoir avec les municipalités, avec les entreprises, pour arriver à proposer des meilleures solutions et par ce biais-là, permettre une meilleure qualité de vie aux personnes âgées. Il y a des priorités au Danemark, que ce soit au gouvernement et municipalités, pour ces technologies, et on mise beaucoup sur tout ce qui est système qui permet de transférer les personnes, donc des systèmes de transfert de personnes fixés au plafond. On travaille maintenant des nouvelles solutions qui permettent de faire le transfert de la chambre dans la salle de bain, dans le salon. Et des solutions très intéressantes qui s'intègrent bien dans le logement. Une autre priorité, c'est tout ce qui est les gestes de la salle de bain, de rendre la personne le plus autonome possible pour pouvoir aller dans la salle de bain elle-même. Et finalement, une priorité claire et nette, c'est tout ce qui est formation et ces nouvelles pratiques qui sont quand même liées aux nouvelles technologies. Alors, je disais que j'avais... Ah, là, je vais aller trop loin. Comment je vais maintenant faire pour revenir en arrière? Voilà, c'est bon. Alors, là, c'est un exemple où l'usager a été mis au centre d'une innovation technologique. c'était à l'initiative de la municipalité d'Aalborg, qui, avec un industriel danois et les utilisateurs au sens large, c'est-à-dire des personnes âgées, la famille, les employés, la maison de retraite, ont participé à cette nouvelle solution qu'on appelle la tablette du bien-être, qui permet en fait à la personne âgée, et la femme qu'on voit sur la photo, elle a 88 ans, elle a participé aussi à ce développement et elle en est ravie, comme vous pouvez dire, voir. Elle a dit qu'elle aurait préféré l'avoir plus tôt, mais en fait ce que ça fait, c'est que cette personne âgée qui l'utilise peut donc vivre une vie assez autonome, parce qu'elle peut commander des repas au restaurant de la maison de retraite, elle peut communiquer avec sa famille, elle peut recevoir des rappels de la part du personnel soignant, à savoir la prise de médicaments. Après, ça peut être vérifié, etc., bien sûr, mais c'est pour les personnes qui peuvent le gérer elles-mêmes. C'est aussi un moyen pour la famille de suivre le quotidien de la personne âgée, parce qu'ils ont accès directement aussi à la tablette. Donc, ça commence à se répandre de plus en plus au Danemark, et je voulais vous le montrer parce que c'est un bon exemple pour montrer ce qu'on fait vraiment au Danemark, c'est-à-dire mettre l'usager au centre des innovations. Parce qu'on peut dire qu'il existe beaucoup de tablettes comme ça, il y a les iPads d'aujourd'hui, etc. Mais là, ça a vraiment été développé pour les besoins de la personne âgée, c'est-à-dire moins de touches, les touches sont plus grandes, il y a un bouton retour facile à utiliser, etc. etc. L'autre exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est en fait un projet à Copenhague, dans une maison de retraite, où on a voulu, pareil, mettre l'usager au centre de l'innovation. Là, ce n'est pas uniquement par rapport à une solution, mais c'était l'ensemble du bien-être, la qualité de vie des résidents dans la maison de retraite. Ceci aussi en vue parce qu'à Copenhague, dans les années à venir, on va aussi faire pas mal de constructions, donc on voulait avoir une bonne base pour les futures constructions, exactement. Ce qui était important dans ce projet, c'est que donc, c'est d'une part, bien sûr, la municipalité qui a travaillé avec 8 industriels, avec 100 habitants qui ont été suivis avant, pendant et après les essais des solutions, et les employés, les familles et le Living Lab de Copenhague. Et ensemble, ils ont formulé ce projet qui, en gros, consistait de bien identifier les besoins des habitants, ensuite tester les solutions et en dernier adapter les solutions aux besoins réels. Cela a mené à des vrais changements pour l'avenir, parce que je ne vais pas vous résumer toutes les conclusions, mais par exemple, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui restaient pas mal de temps dans leur logement parce que c'était trop compliqué de sortir, tout simplement, participer aux activités, etc., de la maison de retraite. Donc, une chose qui va être changée à l'avenir, c'est par exemple d'automatiser l'ouverture des portes. Il y avait aussi les portes de la maison de retraite pour bien circuler qui se fermaient trop vite. Donc, de mettre en place un système pour permettre de fermer plus lentement. Les rideaux aussi, les personnes âgées ont exprimé le besoin d'avoir des rideaux qui pouvaient être automatisés, voire à commande vocale. Et en dernier, il y a des essais qui ont été faits pour faire plus d'exercices de sport dehors pour augmenter le bien-être des habitants. Donc, tout ça pour vous dire que les besoins ont été identifiés et maintenant, ça va donc amener des changements pour l'avenir.
2 minutes.
2 minutes, c'est parfait. C'est la dernière page. Je voulais vous parler de quelques initiatives qui ont été mises en place au Danemark pour faire progresser l'innovation. Bien sûr, au niveau de l'État, il y a des sommes assez importantes qui ont été allouées au test des technologies, parce qu'une part, bien sûr, il faut écouter les besoins, adapter les solutions, mais il y a un travail derrière aussi pour continuer à faire avancer les technologies. Il y a maintenant le fait que il y a un centre des technologies qui a été installé, parce qu'on s'est rendu compte que les municipalités, les centaines de municipalités profitaient pas assez des expériences des unes et des autres. Donc maintenant, ça va être coordonné. Je voulais vous parler d'une expérience intéressante qui ouvre la semaine prochaine à Silkeborg. C'est la municipalité qui a pris l'initiative de reconstruire une nouvelle sorte de logement pour personnes âgées et qui va être testée par les futurs habitants, les architectes, beaucoup de personnes impliquées dans le travail de construction des maisons de retraite pourront aller voir ce que ça va être concrètement, ces logements-là à l'avenir, et des adaptations pourront être faites. Nous avons bien sûr des laboratoires vivants, Living Lab au Danemark aussi. Là, je vais juste finir sur le fait que maintenant, au Danemark, on voit qu'on commence de plus en plus à intégrer ces Living Lab directement dans les maisons de retraite. Et il y en a une nouvelle qui va ouvrir en début de l'année prochaine. J'espère que ça vous a donné une idée de ce qu'on fait au Danemark. Et si vous avez des questions après, n'hésitez pas.
Écoutez, merci. Surtout, ça nous permet très rapidement de faire des comparaisons, encore une fois, entre ce qui se passe au Danemark, l'engagement des municipalités, l'engagement des maisons de retraite, mettre le Living Lab directement dans la maison de retraite, et surtout cette culture de la concertation, cette culture de mobiliser, d'associer les usagers aux différents projets. Un grand merci. Je vous propose maintenant de changer les partenaires de la table ronde. Et rassurez-vous, nous avons raccourci la fin de notre intervention. Nous aurons tout fini vers 18h30, 18h35 au maximum, si vous avez la gentillesse de bien vouloir rester avec nous. Vous allez voir maintenant les expériences du terrain et les retours du terrain. J'appelle à la tribune Catherine, Eric, Juliette, Sandrine et, où est-il passé, Patrick, que j'apercevais dans le fond. Donc je suis content de donner la parole tout de suite, sans perdre de temps, à quelqu'un qui nous a fait l'honneur, la gentillesse et le plaisir de venir parler un petit peu de la réalité du terrain avec nous, Catherine Olivet, qui est une personne bien connue dans le dispositif francilien d'accompagnement de maintien à domicile. Elle a créé et présidé France Alzheimer 93. Elle participe à plusieurs mouvements d'espace éthique, de réflexion éthique. Mais surtout, elle a une expérience du terrain, une réflexion du terrain, des coups de gueule qu'elle meurt d'envie de partager avec nous maintenant. Catherine, à toi la parole.
Je vais essayer de ne pas trop pousser de coups de gueule, mais il faut que je me restreigne, parce que là, j'ai déjà entendu plein de choses qui m'énervent. Donc je vais essayer de ne pas trop le faire. Non, ce que je voudrais simplement dire, c'est que je suis toujours extrêmement perturbée d'entendre des affirmations et des affirmations gratuites, confondre le savoir et le savoir statistique et la probabilité et puis confondre les vrais choix, les choix théoriques et les choix dans la vraie vie. Alors je vais essayer de vous ramener un petit peu dans la vraie vie. D'abord pour vous dire, et surtout à dire à ceux qui sont jeunes dans cette salle, que c'est globalement extrêmement chouette de vieillir. Quand on vieillit en bonne santé, dans une ville agréable et charmante, et dans un logement bien aménagé et pratique. Et là, c'est vraiment génial de vieillir comme ça, surtout qu'en plus, quand vous êtes dans le métro, on vous laisse une place assise. Maintenant, il y a dans notre beau pays de France des tas de logements pas du tout adaptés. Ils peuvent être charmants. Je pense aux, au cœur de vieilles villes, hein, au cœur de cités moyenâgeuses qui sont très recherchées par les touristes, mais il vaut mieux pas vieillir dedans. Je pense, dans ma Seine-Saint-Denis, à quelques bars extraordinaires de banlieue, de ces cités où l'ascenseur est en panne à peu près 4 mois sur 5 parce que les dealers les ont transformés en cash. Et donc, si par malheur vous êtes vieux et au sixième étage, là, je suis pas dans l'élaboration d'aménagement extraordinairement. Je vous parle juste d'un ascenseur, moi, hein, je suis très terre à terre. Ben oui, mais vous ne l'avez pas parce que vous êtes dans un endroit où l'ascenseur ne peut pas survivre lui-même. Voilà, donc moi, ce qui me frappe d'abord, c'est la prodigieuse inégalité du vieillissement selon le lieu de vie et l'environnement dans lequel on vit. La deuxième chose qui me frappe quand j'entends, en plus de ça, Namur et le Danemark, et alors là, ça a vraiment le don de m'énerver, c'est que nous avons une spécialité franco-française, que quand vous avez 60 ans et un jour, votre vie est transformée, vous n'êtes plus un adulte qui a besoin d'aide humaine, d'équipement, d'aménagement, vous êtes devenu un vieux. Alors vous avez le jeune vieux, vous avez le vieux, puis vous avez le vieux-vieux, puis vous avez le très vieux. Et dans notre beau pays de France, on met dans le même sac des gens de 60 ans et un jour et des centenaires. C'est à peu près comme si on organisait la vie professionnelle de la même façon pour un apprenti de 15 ans et pour un ingénieur de 50 ans. Voilà. Et ça n'étonne personne, pas même les ministres quand ils viennent nous voir. Parce que vous n'en avez pas entendu un seul revenir sur le problème du moins de 60 ans et du plus de 60 ans en France, qui est quand même un problème majeur. Donc tout ça pour vous dire que il y a sûrement une marge de manœuvre extraordinaire dans la qualité de vie, non seulement des personnes fragiles, vieillissantes, mais aussi de ceux qui vivent avec eux, c'est-à-dire leur vieux conjoint aussi, et puis le professionnel qui vient à domicile. On a mis très longtemps à découvrir qu'on ne pouvait pas mettre un lit médicalisé dans une chambre trop petite, que ça voulait dire, quand on était mariés depuis 50 ans, ne plus dormir ensemble. Parce que c'est des générations, c'est idiot, elles vivent encore 50 ans, 60 ans en étant mariées. C'est bien que ça bouleverse tout le monde, ce que je dis là. Mais ça existe encore. Et donc rien que l'idée d'être séparés, de ne plus être dans la même chambre, c'est un... Et puis alors, quand en plus ça, le logement est trop petit pour mettre un deuxième lit dans une autre chambre, le conjoint dort où ? Sur le palier. Je voudrais dire, mon cher ami, qu'on ne peut pas du tout comparer investir 15 000 euros pendant 8 ans pour aménager un logement par rapport à des processus qui pourraient se produire, comparé au prix de 8 ans en EHPAD. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vie. C'est, on connaît tous la moyenne statistique de durée de vie en EHPAD. Elle est de 2 ans en France. C'est, donc le calcul, il est faux, le calcul que tu fais. Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que la personne qui aurait besoin d'aménagement, mais qui n'a pas les moyens de se les payer, et puis son aidant familial qui rame, eh bien, il prolonge le maintien à domicile dans des conditions ravageuses, épuisantes, fatigantes, souvent extrêmement agressives pour le cœur et le corps, et ils le font. C'est pas 8 ans, 8 ans. D'accord ? Voilà, ça c'est pour les économistes qui voudraient faire de la rentabilité. Voilà, donc je voudrais très vite vous dire que en France, notre régime social qui différencie clairement les moins et les plus de 60 ans est un handicap majeur à la montée des escaliers de la silver economy. Et tant qu'on aura cette dichotomie, eh ben ce sera extrêmement difficile d'anticiper et de se préparer à des besoins. Peut-être le pourra-t-on si on imagine que des logements... Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et apprécié ces notions de logements adaptables et non pas aménageables. C'est-à-dire, d'emblée, on a conçu que la vie et la vraie vie pouvaient faire que même à 30 ans, on a un accident de moto et on est paralysé. Et que ce n'est pas que les vieux qui sont paralysés. Donc c'est assez génial. Je voudrais pour conclure vous dire que dans la vraie vie, il ne s'agit pas uniquement d'argent, de rentabilité, d'aménagement, de matériel qualifié, répertorié, analysé, solvabilisé et considéré comme de bonne qualité. Il s'agit de cœur. Et plus vous vieillissez, plus vos murs, les objets, les bibelots, les décorations, les meubles qui s'y trouvent, plus vos murs prennent une toute autre dimension. Il ne s'agit pas et il ne s'agit plus de fonctionnalité, il ne s'agit plus du service rendu, il s'agit du meuble que j'ai toujours vu dans le salon de ma grand-mère. Il s'agit, c'est le dernier objet qui me reste de mon grand-père, il s'agit de ce vieux fauteuil informe très laid et pas du tout ergonomique. C'est celui dans lequel mon mari, mort depuis 25 ans, aimait tant lire le journal. Et ça, c'est une dimension que vous ne pourrez jamais appréhender, mesurer, comprendre, assimiler, quantifier, codifier et financer. Ça veut dire que quand on rentre chez quelqu'un, on doit le faire avec tact. Messieurs et mesdames les ergos, on doit le faire avec tact, avec délicatesse. Mesdames et messieurs des villes, des évaluateurs, avant de proposer des modifications, on doit le faire avec tact, avec délicatesse, en marchant une étape après l'autre, pour que les choses soient intégrables. La France est un pays qui aime les traditions, qui aime les souvenirs, qui vit quelquefois avec. Et je crois que la première des valeurs éthiques de la démarche de l'aménagement et de l'adaptabilité des logements, c'est quand même la démarche du respect de la personne. C'est pour ça que tous les projets qui sont basés sur une évaluation par les personnes elles-mêmes, dans une situation concrète, les Living Labs, ou l'évaluation d'une expérimentation faite en maison de retraite qui accompagne une telle expérimentation. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve qu'il est absolument indispensable que tous les penseurs, jeunes ou jeunes vieux, arrêtent de penser pour les autres, arrêtent de croire que ce qu'ils rêvent pour eux est le rêve des autres. Vous avez une expérience très facile pour vous imaginer ce que je voudrais à quoi je voudrais que vous veilliez. C'est ce qui s'est passé dans les maisons de retraite, justement, dans les EHPAD. Vous les voyez tous, je veux dire, les maisons de retraite ont été conçues d'une façon prodigieuse en termes d'accessibilité, de travail, sur les couleurs, sur les lumières, sur les outils facilitant le travail des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, des EHPAD, etc. C'est-à-dire les derniers EHPAD construits sont prodigieux en termes de tout ce qu'on est venu vendre. Est-ce que vous êtes déjà rentré dedans? Je veux dire, moi je trouve ça magnifique. C'est probablement bien plus beau que chez les gens dans leur logement à eux. Mais vous êtes dans un hôtel. C'est sûrement des fauteuils vachement plus confortables que le vieux fauteuil crapaud du vieux mari. C'est certainement plus hygiénique en termes de nature de revêtement du tissu, etc., etc. Mais vous êtes dans un hôtel. Aimeriez-vous vivre dans un hôtel en permanence? Est-ce que vous y êtes pour faire quoi? Vous y êtes en transit? Entre quoi et quoi? Vous y êtes en partance? Entre quoi et quoi, en partance pour le cimetière? Voilà, ce sont des très beaux hôtels qui répondent à toutes les normes possibles et imaginables de sécurité, de qualité, de tout. Voilà, et ma grande peur, Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que dans le... dans la vie individuelle, les Français ont une très forte puissance de résistance. Et bien évidemment, mon immense crainte, c'est que vous vouliez transformer ces logements privés dans lesquels vivent des hommes et des femmes et les transformer en chambres d'hôpital ou en chambres d'hôtel. C'est ça ma hantise. C'est-à-dire que vous en perdiez la notion de la personne, elle, ce qu'elle est, elle, ce qu'elle aime, elle, ce qu'elle emmène dans ses bagages de souvenirs et d'importance et dans sa hiérarchie des importances, pour transformer tout ça en truc super fonctionnel, super joli, super pensé, super préparé, labellisé, qu'est-ce que j'ai lu comme mot là, enfin, c'est génial quoi, c'est labellisé, évalué,
voilà.
D'accord. Bon, donc j'ai à la fois beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de peur. De peur parce que je crois qu'on y a quand même perdu la dimension des hommes. Je voudrais vous dire quand même qu'il y a des mots qui font mal quand on les lit. Je ne sais pas si vous avez lu la pancarte qui était à l'entrée, mais c'est extraordinaire quand même. Hein, parce qu'on vous parle de personnes âgées captives. Il y a le mot « captif ». C'est-à-dire, c'est vrai que quand il est chez lui et en perte d'autonomie, il ne peut pas vous dire « ciao, il est captif ». Waouh ! Vous aimeriez, vous, être dans une chambre d'hôtel et en plus de ça, captif ? Posez-vous juste la question pour vous et juste la question pour votre mère. Voilà. Je vous souhaite quand même de tout cœur de réussir parce que je pense que c'est quand même un chemin indispensable. Que la technologie, il faut arrêter de la voir comme dangereuse, inquisitrice, etc. C'est pas vrai. Elle peut avoir beaucoup d'améliorations à condition qu'elle soit pensée par des hommes, pour des hommes, et qu'elle soit pensée pour tous, le plus possible, et non pas seulement pour une élite qui est capable de se la payer et de la dominer. Qui est capable de se payer l'homme qui dominera la technologie. Voilà, donc ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de réussite. J'aime beaucoup votre principe d'évaluer in vitro, d'évaluer dans la vraie vie. Je pense que c'est la seule garantie pour échapper à l'amour de la technocratie que nous avons en France.
Merci. Voilà, vous comprenez qu'à partir du moment où on associe un projet... Des vrais usagers, des vrais utilisateurs finaux, mais parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils parlent avec leurs tripes. Pour ceux qui ont connu Geneviève Larocque, la présidente de la Fondation nationale de gérontologie, décédée il y a un an, une femme absolument extraordinaire, ce que tu disais sur ton fauteuil me fait penser à sa cuisinière. Elle avait toujours, dans presque tous les colloques, l'habitude, c'est la petite mamie, elle a sa cuisinière qui est à charbon, qui est là. Et vous voulez lui remplacer par un micro-ondes parce que c'est plus... Mais elle a fait la cuisine sur la cuisinière à charbon. Et avec son exemple de la cuisinière, elle faisait comprendre, elle remettait les choses en place. Vous avez compris qu'on essaye de s'inscrire dans cette zone de dialogue. La vérité, elle est sur le terrain, c'est clair. Au domicile, avec les usagers, avec un temps de réflexion. On n'aménage pas un logement, un appartement, on n'adapte pas, pardon, un logement, un appartement en deux coups de cuillère. Et les démarches actuelles qui sont générées par des financements... Il vous faut dans une seule... Attention à toi.
J'ai passé l'habitude de fréquenter les bars.
Ces démarches-là, eh bien, ne laissent pas le temps de la réflexion, de l'acceptation, le fait de se regarder dans le nouvel espace, dans lequel il y a de la place pour le fauteuil en cuir, dans lequel il y a de la place pour les souvenirs, la mémoire, la vie, la vraie vie qui est à l'intérieur. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas mettre en place des aides, qu'on ne peut pas mettre en place des dispositifs qui vont être pensés pour permettre ce maintien à domicile. Mais